Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 16 novembre 2005 de 18h à 21h, en différé jeudi 17 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comme vous l'avez constaté, c'est pas Victoria.
Ah,
alors,
Victoria
est très enrhumée. Hein.
J'ai pas la voix, mais il flue, moi.
Non, pas vraiment. Alors, Victoria est souffreteuse, dirons-nous.
Oui, voilà.
Enfin, c'est pas exact, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est Jacques qui est un peu malade. Mm-hmm. Je le salue, d'ailleurs, je fais toutes mes amitiés et mes voeux de prompt rétablissement. Jacques. Vous voyez qui est Jacques.
Oui, je vois très bien qui est Jacques.
Et comme il accompagne Victoria... Victoria est un peu fatiguée, elle n'a pas...
Mais comme nous prenons souvent langue avec Jack pour rentrer après, comme on va faire...
On prendra le métro.
Voilà, on prendra le métro. Même.
Et le Goffman aussi n'est pas là. Enfin, non plus n'est pas là.
Comment ça se fait, ce n'est
pas... Mais moi, je pense que tout ce monde-là a peur de la guerre, ils ont tous déserté,
c'est ça. Nous sommes les derniers courageux.
Le Goffman, il m'a dit, je ne peux pas venir parce que je travaille demain.
Ah oui, il est fatigué avant, lui.
Pas, il parle de participation, il est fatigué. Voilà, alors, au programme de ce soir... Que des surprises. Je dis qui on a parce que comme ça, si les gens sont pas intéressés, ils peuvent
tout de suite partir sur Skyrock.
Oui, côté Skyrock, par exemple. Alors, j'avais écrit Victoria, non, elle est pas là. Goffman, non, elle est pas là. Le Marquis est là. Vous êtes là, Marquis?
Ben, j'essaye.
Daniel Raffard de Brienne, bonsoir Daniel.
Présent.
Cet objet-là, ça s'appelle un micro, donc vous pouvez le mettre devant votre bouche pour parler.
Je croyais que c'était sur une glace.
Ne laissez pas la glace au citron.
Non, je ne conseille pas d'essayer.
Ça ressemble
un peu une glace à la réglisse, mais ce n'est pas le cas du tout. Qui viendra nous parler de ses activités d'écrivain, et puis de la vente des écrivains catholiques, l'association, dont il est le président. Ensuite... nous recevrons messieurs Lagartempe, Abalin et Walter. Alors monsieur Lagartempe a écrit entre autres un guide du Coran. Monsieur Abalin a écrit entre autres aussi un livre qui s'appelle Les soleils noirs de la guerre d'Algérie. Et monsieur Walter a écrit entre autres un livre qui s'appelle Crépuscule de l'islam. Tous ces livres sont fort intéressants, ils m'ont inspiré l'idée...
Mais dans le sujet, là, oui.
Ouais, de voir si, par hasard, on pourrait pas trouver...
des explications.
Des explications, voilà. Donc, on fera ça. Ensuite, nous recevrons un personnage fort intéressant, je crois, qui s'appelle Claudio Rizé, qui est italien, mais qui, je vous rassure, parle un français meilleur que mon italien. Il n'a pas de peine, d'ailleurs. Et qui vient de publier aux éditions Rémi Perrin un livre fort intéressant et fort passionnant qui s'appelle Le Père Absent. Mmh. En français, parce qu'en italien, il a un titre que je trouve beaucoup plus clair, c'est Il Padre, l'assente inacceptable. Mmh. Ce qui veut dire l'absent inacceptable. Pardon. Ça, c'est moi qui tousse. Ensuite. Monsieur Arzel vient de nous parler de...
De ses vacances.
Non, pas de ses vacances, mais... Pardon, il parlera avec vous de l'hôtellerie de luxe. D'ailleurs, l'idée, c'est comme vous fréquentez des grands palaces... Je me suis dit que c'était peut-être intéressant de faire quelques minutes sur, non pas sur les grands palaces, parce que on n'y irait jamais, mais sur la question de savoir si c'est vraiment une solution pour sauver le patrimoine en France.
De transformer des châteaux de famille en, voilà, en autre, en relais châteaux, oui.
On parlera de ça.
Je réponds oui, déjà.
Et puis ensuite, on fera un petit point de la situation avec Philippe Varlet, de la situation de Radio Courtoisie et de la paroisse Saint-Eugène. Je suis désolé de vous infliger ces quintes qui ne sont pas des quintes flush.
Et qui vous prennent des matines.
On va attaquer tout de suite le sujet principal. Alors, j'ai là un auteur d'un livre sur l'islam, un auteur d'un livre sur l'histoire des barbaresques, et l'auteur d'un livre sur la guerre, l'auteur de plusieurs livres sur la guerre d'Algérie. Et ce que je vais vous demander, messieurs, c'est de nous aider à réfléchir sur une question qui me paraît tout à fait d'actualité. Est-ce que oui ou non, l'islam ou l'islamisme, selon vous, joue un rôle dans la situation actuelle? Je vous demande d'y réfléchir, et en attendant, je donne la parole à Daniel Raffard de Brienne.
Qui essaiera de réfléchir aussi. D'ailleurs, dans mes projets très proches, je ferai un petit livre sur les informations concernant les croisades, où je montre que les croisades nous ont sauvé l'invasion turque, en la retardant de 2 siècles. Ceci étant dit, ce livre n'est pas paru. J'en publie actuellement toute une série, et je ne serai pas le seul, et d'autres auteurs s'y joindront, sous la forme que vous avez d'ailleurs si gentiment décrite dans le livre journal papier, le Décadaire, de petits essais dont l'idée m'a été donnée par Wolkoff, la désinformation autour. Alors, j'avais commencé par la désinformation autour du linceul de Turin, et ça a eu assez de succès, c'était assez amusant. J'ai perturbé des campagnes qui se préparaient contre le linceul parce que j'ai révélé qui en étaient les auteurs.
C'est la première fois que de votre vie que vous êtes un avorteur.
Oui, là j'avais fait avorter. Et je continue. J'ai même écrit au président directeur général d'une énorme boîte américaine qui finance tout ça, parce que ce sont des francs-maçons, tout simplement. Je n'ai pas de réponse. Je me disais, est-ce que j'aurai une réponse ou est-ce que j'aurai une balle dans la tête? Jusqu'à présent, ni l'un ni l'autre.
Bon, un coup de polaire cadoche au maximum.
Ah bon, je sais pas.
Parce que en tout cas,
on verra. Ensuite, j'ai passé un deuxième petit livre, les informations autour de Jésus et de Marie. Ça, pour répondre à tous nos historiens et nouveaux exégètes. Journaliste catholique comme M. Jacques Duquesne, qui écrit dans La Croix, qui tous racontent des bêtises plus grossières.
Il y en a un qui m'amuse beaucoup en ce moment, c'est M. Henri Tain, qui a fait un papier sur Charles de Foucault dans Le Monde, dans lequel il dit que maintenant plus personne ne retient l'hypothèse que Charles de Foucault a été tué par les Sénoussiens. Il explique que c'est son domestique,
son butler,
disons, qui, entendant du bruit, a armé le fusil et a tiré naturellement sur le maître, au lieu de tirer sur l'ennemi qui n'était pas là.
Oui, vous ne croyez pas plutôt qu'il est mort d'une arête dans la gorge, non?
Moi, je pense qu'il a dû mourir, probablement d'ailleurs, d'un excès de boisson ou d'un excès alimentaire, parce que... Alors, non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que... Alors, on peut s'arrêter une seconde à ce sujet, c'est que... Ça, c'est un révisionnisme qui n'est pas poursuivi par les tribunaux, ça. On peut dire sur l'histoire de l'Église catholique, sur l'histoire des saints, absolument ce qu'on veut, sans aucune sanction.
Le délit de catophobie n'existe pas.
Voilà. On peut nier la simple vérité historique de façon aussi grossière que le fait Tinck, sans courir absolument aucun risque, raconter pratiquement que... Charles de Foucault est mort par accident, naturellement, au moment même où Charles de Foucault est béatifié. Reprendre toutes les vieilles carabistouilles, toutes les vieilles calembredaines sur le travail d'espion qu'il aurait fait, alors que tout ça est parfaitement démenti par tous les écrits, que ce soit les écrits de Massignon ou d'autres témoins amis de Charles de Foucault. On va même jusqu'à lui reprocher d'avoir été l'ami du marquis de Morès, lequel était, oui. C'est bien connu, une relation de Drummond qui était...
Oui.
Donc,
ah, nous tombons dans l'horreur.
Voilà, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'antisémite. Voilà. Et donc ça, c'est oui. absolument pécamineux et condamnable.
D'ailleurs, après tout, pourquoi avait-il un fusil chargé?
En plus, on peut se le demander.
Pour un homme de paix, c'est, oui, ça fait des ordres, non
ça,
ah bon, oui.
Un homme de pétoir, là.
Oui, exactement.
Voilà, en tout cas, ils l'ont dans l'os, si j'ose dire, les Tinques et compagnie, parce que quoi qu'ils fassent maintenant,
eh ben, il est
Charles oui, Foucault est béatifié.
Mais voilà. Comme disait notre grand ami Voltaire, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Et alors, nous avons un travail fou, essayer de remonter le courant de la vérité. Alors, c'est ce que j'essayais de faire avec mes petits livres. Un autre va sortir ces jours-ci, qui sera consacré, alors vous allez aimer ça, la désinformation autour de l'origine de l'homme. Avec un ton un petit peu ironique et puis quelques dessins de ma plume que j'avais publié jadis. Alors ça va sortir ces jours-ci et je pourrais le présenter, le signer pour les amateurs au grand sujet de ma présence ici, qui est la vente des écrivains catholiques.
Alors là, l'Association des écrivains catholiques, il y a, si j'ose dire, avec tout le respect qui est dû à ces éminentes personnalités...
La vente, alors, dédicace des écrivains catholiques aura lieu ce vendredi, c'est bien ça, 25 novembre 2005, de 14h à 19h30, à la mairie du 6e arrondissement.
C'est-à-dire juste en face de l'église Saint-Sulpice.
Voilà.
Dans des très beaux salons. Ça vaut le déplacement, et je signale, en passant, l'entrée est gratuite.
Il y a un générique.
L'entrée, j'ai pas dit la sortie, hein. L'entrée est gratuite, la sortie éventuellement pour les gens qui n'achètent pas de livres, mais arriveront-ils à ne pas...
Oui, ils seront mal vus.
Oh non.
Ils sont photographiés à la sortie, on publiera leur nom.
Non,
on pourrait
non.
peut-être rappeler, parce que ça prend deux lignes. Qu'est-ce que c'est qu'être écrivain catholique, puisque vous en êtes le président, cher monsieur? Alors, être écrivain catholique de langue française, c'est ne pas avoir honte de se déclarer publiquement catholique, accorder la primauté à la foi, accepter la totalité de l'enseignement de l'Église et le magistère du successeur de Pierre, protéger et développer la culture française. C'est pas mal comme programme.
Et si on est orthodoxe, voilà. On peut être écrivain catholique.
On peut être ami.
Ah voilà, c'est ça. Ça y est.
Ah non, mais Volkov. N'empêche que l'année dernière, Volkov y est venu pour m'emmener dîner. Ah. Vous qui n'était pas sectaire, lui.
Non, lui n'était pas sectaire, c'est vrai.
Je l'appelais schismatique, mais bon, c'est pas grave. Il l'appelait l'hérétique. Alors on s'entendait très bien comme ça. Non, c'est important et moi j'ai envie que cette association se développe, non seulement en nombre, il y a 350 membres je crois, mais en influence. Mon ambition c'est que cette association, parce que si c'est pour se regarder le nombril en rondelle, moi ça m'intéresse pas du tout et je préfère faire autre chose en rond, enfin
bon. Oui, oui.
Et si souvent c'est qu'elle intervienne dans les débats de société pour rappeler ce que beaucoup de nos évêques oublient de rappeler, alors qu'ils sont là en principe pour ça, si je ne m'abuse. Alors voilà, donc le vendredi 25 novembre, face à Saint-Sulpice, ouais. Entrée, il n'y aura pas de caisse à l'entrée.
Il y a une liste impressionnante. Il y a plein de gens connus.
Ils n'y sont pas tous. Ils n'y sont pas tous.
Puis il y a évidemment plein d'auteurs de la famille.
Il faut en dire quelques-uns quand même.
Dites vos amis, comme je les connais pas.
Pas forcément mes amis, mais enfin, au hasard, comme ça, il y aura Daniel Ancelet, Antoine Assaf, Florence de Baudus, qui est bien connue dans cette maison, qui y aura encore Nadine Crétin et Étienne Couvert.
Oui.
Yves Daoudal, il y aura.
Oui, Daoudal.
Il y aura le père de Robert, l'auteur d'un formidable bouquin sur le padre Pio. Il y aura Yvan Gobry. Et il y aura qui encore, pourrait-on dire, Denis Lancel. Il y aura Philippe Maxence. Il y aura Isabelle Moural. Huguette Pérol. Il y aura Michel de Poncin. Pierre Pugeot. Il y a Daniel Raffard de Brienne,
Il serait aussi.
C'est une bonne. Michel Rebout.
Sauf s'il y a trop de grèves de chemin de fer.
Alix Doran Chabot, qui fait des très jolis livres. Il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Marguerite de Vogüé, Rochabot. Les Rochabot viennent en force cette fois-ci.
Oui.
Alors, comment vous dites-vous, Marquis? De Vogüé ou de Vogue?
De Vogue.
De Vogue.
De Vogue, je vais être comme
ça. Bon. Marguerite de Vogue, Rochabot.
Oui.
Hein, c'est bien.
Alors tout ce que vous n'avez pas dit, on est fâché avec.
Non, on n'est pas fâché. Non. Parce que tout le monde n'y est pas. Il y en a qui ont été oubliés, comme Anne Brassier, par exemple, dont vous avez parlé tout à l'heure.
Elle n'est même pas inscrite.
Mais non.
Vous avez la chance d'avoir Anne Brassier.
Mais c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui tapote sur l'ordinateur. Et pas que l'ordinateur a fait des siennes. Il a fait des tris à son idée. Vous savez, ces petites bêtes-là.
Pardonnez, parce que vous avez beaucoup péché.
Comme Anne Brassier m'a appelé personnellement tout à l'heure, ça me fait très plaisir. Je voudrais que vous preniez vos crayons pour noter une chose. Anne Brassier vous informe que sera donné le 18 novembre à 20h30 et le 20 novembre à 17h en la chapelle de l'hôpital Saint-Louis, 12 rue de la Grange-Aubelle à Paris, métro Colonel Fabien, un concert gratuit. Ce seront des suites de violoncelle de Bach exécutées par Vladimir Chevel. Voilà. Le 18 novembre à 20h30, le 20 novembre à 17h à la chapelle de l'hôpital Saint-Louis.
C'est très très joli l'hôpital Saint-Louis, la chapelle de l'hôpital Saint-Louis. C'est une très jolie petite chapelle.
Et ça doit être très intéressant.
L'entrée, c'est par la rue de la Grange-Aubelle, je crois.
Oui. C'est d'ailleurs 12 rue de la Grange-Aubelle.
Ouais, bah voilà, c'est ça.
Je viens de le dire, chef.
Mais j'écoute pas quand c'est
pas moi qui parle. Ah, vous écoutez pas votre radio? Non. Oui, d'accord, j'ai compris.
Bien, alors donc on ira vous irez pour acheter des livres.
Acheter des livres, ou aussi, un jeu assez intéressant, c'est voir la bobine des auteurs. Les gens qui entendent des auteurs sur Radio Courtoisie, ce serait peut-être pas facile de voir à quoi ils ressemblent. Alors qu'ils seront peut-être quelquefois déçus.
C'est pas toujours une réussite. Voilà,
non, pas toujours. Bon. Hein, enfin, ils se font une idée objective de la chose. Et puis s'ils me prennent mon petit bouquin sur l'origine de l'homme, ils sauront si oui ou non ils descendent du pithécanthrope et du poisson. Voilà.
Ah, dans mon quartier, ils descendent ni l'un ni de l'autre. J'ai la réponse.
Avant,
oui. Oh, attendez. Vous savez que la question du poisson est importante. Vous avez quand même des hommes qui sont des merlans, des maquereaux ou des morues.
Oui, c'est vrai.
Il y a dans mon quartier, ça. Oui.
Bon. Voilà. Donc, vendredi 25.
Il n'y a absolument pas de singe parmi mes ancêtres. J'ai posé la question.
Ah oui?
Non.
Bon.
On est humain pratiquement depuis le début, depuis Adam.
Vous remontez jusque-là.
Je descends d'Adam, moi.
Ah oui. Oui, mais il y a un truc où ça coince, ça c'est Noé.
Et ça a commencé à se déglinguer à quel moment, non?
Le lendemain.
C'est juste.
Comme disait Ben, tout a toujours été marché très mal. Bien, alors rendez-vous le vendredi 25 novembre de 14h à 19h30, mairie du 6e arrondissement, 75-006 Paris, métro Saint-Sulpice, autobus 84, 96, 87, 70, 63, 95. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'embêtent pas. Hein. La place Saint-Sulpice, c'est quand même un drôle d'avantage d'habiter là.
Eh oui, c'est une gare routière.
Eh oui. Il y a même un parking, voilà, et vous pourrez rencontrer Daniel Raffard de Brienne, qui est quand même quelqu'un qu'on aime avoir à sa table, que ce soit à la radio ou dans un bon restaurant.
Nous vous étudierons ça prochainement.
C'est pas une réclamation.
Non.
Merci Daniel de vous être dérangé depuis votre lointaine province. Et surtout que cette fois-ci, vous m'avez dit combien de fois vous allez venir à Paris en une semaine?
8 fois en 11 jours.
8 fois en 11 jours. Vous ne feriez mieux carrément d'habiter Paris ou transporter vos activités à...
Ça me reviendrait beaucoup plus cher.
C'est sûr.
C'est ça le problème.
C'est le moment.
Alors, Monsieur Raffard de Brienne, pourrait-il nous dire quelques mots sur son ouvrage sur l'origine de l'homme? Je pense que vous viendrez nous en parler quand il sera paru, ce sera...
Oui, je viendrai à ce moment-là, oui, quand vous l'aurez vu, vous.
Voilà, quand j'aurai vu, je pourrais poser des questions...
Pertinentes.
J'allais dire intelligentes, mais ça prendrait trop de temps. La semaine dernière, j'ai lu quelques extraits de rap...
avec un succès considérable.
On en a un peu causé.
Oui.
Et bon, je ne vais pas recommencer le même numéro, je vous rassure tout de suite. Mais j'ai reçu de nouveaux textes. Et alors là, la question qui se pose vraiment maintenant, c'est de savoir ce que fout ce gouvernement de Lopette. Ce que fout cette justice de lâche et ce ministère de dégonflé. Parce que, je vais vous lire quelques textes. Nous, si on écrivait ça à propos des beurs, on irait en tôle sans passer par la case départ. Mais eux, visiblement, peuvent se permettre absolument ce qu'ils veulent. Mais mieux que ça, pour avoir lu les textes qu'ils écrivent eux-mêmes la semaine dernière au micro de Radio Courtoisie, j'ai eu la surprise de recevoir un message d'un beurre qui m'a dit « Mais vous êtes raciste ». Parce que figurez-vous que de répéter au micro ce que ces gens-là chantent sur des disques payants, c'est du racisme. Pourquoi? Parce que ça montre que ce sont des ordures et des canailles et de la raclure. Vous en voulez une preuve? Voilà. Extrait d'une chanson « J'aime pas ». J'aime pas ce pays, la France et le latin, son système, son baratin. Extrait d'une chanson, attendez, ça je l'avais déjà lu, voilà. car mon armée, en un seul attentat, va tout exploser. Le troisième front en force contre le front. Une autre chanson. Je suis fier d'être bœuf. Je peux pas trahir mon couscous au lait caillé. J'ai passé toute ma jeunesse à Racaille. Je vous rappelle que ce qui est censé avoir provoqué les émeutes, c'est l'utilisation du mot racaille par Sarkozy. Alors, les gens de Mafia Cain Free chantent « Je suis fier d'être bœuf ». Ça, c'est leur droit. De toute façon, s'ils n'étaient pas fiers, ce serait Paris, ils le seraient quand même. « Je peux pas trahir mon couscous au lait caillé. J'ai passé toute ma jeunesse à Racaille, comme le gros Nassine, le gros Nordine, mes poteaux. Les Algériens, danger, ils ont du mal à nous gérer. Les Algériens, danger, le passé, on l'a mal digéré. » Mais moi, je trouve, messieurs, que vous pourriez très très bien aller digérer ça chez vous. Ça nous priverait pas beaucoup. Et puis, je pense que vous seriez en meilleure santé. On peut aller même plus loin. Extrait d'une chanson de Lunatique. Allah, à toi seul, l'homme doit toute son adoration. Les vrais savent. On n'a pas oublié l'or que le pape porte au cou, c'est celui qui nous a été pillé.
Ben voyons.
Parce que, quoi qu'on ait, de toute façon, c'est eux qui l'ont inventé. Ils ont inventé la bicyclette, l'appareil, le gramophone.
Le vol de nuit.
Le vol de nuit, et de jour aussi, d'ailleurs. Oui. Allô, c'est Bévin, encore en chien de chienne. Les hyènes ressentent la tumeur, et moi, je suis d'humeur palestinienne. Qui veut la paix prépare la guerre, je te rappelle. Vote pour emmener les porcs à la morgue. Les porcs, c'est vous et moi, chers amis, je vous le signale. À la morgue. Eh, négro, c'est l'heure de manger. Brûler leur sperme en échantillons. Souder leurs chattes. Ils sont vraiment malades, hein. C'est vraiment des dingos, hein. Je suis pas le bienvenu, mais je suis là. Je suis venu manger et chier là. Quand je vois la France, les jambes écartées, je l'encule sans huile. Ils ont dévalisé l'Afrique, je vais piller la France. Tu me dis la France, un pays libre. Attends-toi à bouffer du calibre. Je rêve de loger dans la tête d'un flic une balle de GLOCK. Ça, c'est Lunatique qui chante. Ça, c'est vendu. Ce sont des disques qui sont vendus dans les magasins.
Et ben moi, je trouve qu'ils
Qu'est-ce
ont...
que tu fous, Sarkozy, bordel de merde?
Oui.
Enfin, c'est pas possible, ça.
Mais Sarkozy met des flics en prison.
Mais je trouve qu'ils ont raison de brûler les écoles, parce que si c'est dans les écoles qu'ils ont appris à lire, à écrire comme ça, vous
Mais vous vous rendez compte, écoles. Si on écrit ça.
Non, mais la moitié de ça, c'est déjà effrayant.
Extrait de leur chanson Mauvais œil. Les colons nous l'ont mis profond, à l'envers on va leur faire. On est venu récupérer notre dû. Dans vos rues, on va faire couler votre pu. Attends-toi à plus d'un attentat. Ici en France, loin des ambiances pétardes du 14 juillet. Microphone ouvert et nos actions s'amorcent féroces. Ali, Blouba, Lunatique, Haute-Seine, on te saigne. On repartira avec leur argent, leur sang et leur pétasse. La France n'est pas un territoire neutre.
Qui c'est qui leur a mis ça dans la tête, déjà, pour avoir l'idée de pondre des trucs pareils?
Bah écoutez, c'est l'impunité totale.
Ben oui,
c'est, voilà.
Mais
si on leur bottait le train une bonne fois pour toutes, ça les calmerait sans doute.
Il faut les jeter de France.
Ben oui, c'est...
Alors, ça,
oui,
c'est absolument intolérable. Non, mais il faut,
oui,
bien
mais
sûr.
Ils sont français.
Il n'y a plus de place dans les prisons, d'ailleurs.
Ils sont français, la preuve, d'ailleurs.
Mais alors, ils le disent, d'ailleurs. Ils le disent.
Attendez, je vérifie, ils sont pas chez les écrivains catholiques.
Hein. Non,
nous n'avons pas de section islamique.
Voilà. Stop les larmes. Ça, c'est Bosch, troisième œil. Stop les larmes. Place au combat. Il est temps de lutter. Buter ces férias. Un par un sur le carreau, on va les baiser. Trop d'années qu'on supporte ces cons sans broncher. 15 ans, pour une fois, je suis d'accord. Le rendez-vous est à 5h à Vitrolles avec tous les gaillards. Bon, les gars, code table rase. On efface pire que la nuit de cristal.
Oh, bah d'accord.
C'est une bonne référence, ça.
On nique tout, on brûle tout le monde, on frappe, mais Lascar, on la rage. Clépite casse tout. On reste pratiquants, délinquants. Nos psaumes récités par nos mômes de cité à cité. Nique la justice. Il n'y a que Dieu qui peut me juger. Rien que je dors plus sur cette terre de colons impurs. Pour moi, la loi suprême représentée par l'islam.
Tiens donc.
J'aime voir les CRS morts. J'aime les pimpons suivis d'explosions et de pompiers. Écoutez bien ça. Un jour, je te souris. Un jour, je te crève. Si vous avez regardé la télé,
ça, je
dans
vous
toutes
dire,
ces
c'est
émissions...
Le Coran. C'est le Coran, un jour.
Absolument.
Je te souris,
un jour, je caresse la, embrasse la main que tu ne peux pas mordre. Dans toutes les émissions d'actualité, ils reçoivent en ce moment des beurs, et notamment des petits rappeurs. Il y en a un qu'on voit partout, qui s'appelle Zizi La Peste, ou je ne sais quoi. Alors qu'il porte très bien, il est très élégant,
ah oui, bien sûr,
très chic, il est extrêmement joli garçon, bien élevé et tout. Et très souriant. Un jour je te souris, un jour je te crève. Perds mon temps à me dire, je finirai bien par leur tirer dessus. Lunatique dans la violence incite.
Mais ils sont beaucoup plus violents que Nique ta mère.
Là, ça dépasse tout, là. Et si ma haine diminue, c'est que les porcs blancs sont morts et qu'il me reste plus 10 minutes, qu'on met leur femme sans dessous. Mais attention, y attention, quand je vois un porc blanc chez moi, à rien à prendre, sauf que les porcs sont à pendre. Ça, et enfin, pour terminer, je suis venu en paix pour faire la guerre aux bâtards, chante pour que les porcs blancs rampent, et sur mon palier, ça sent le mafé, le couscous ou le tiep, en tout cas pas le porc ou bien le cassoulet, comme chez les gens chez qui je vais cagouler, je leur veux la guerre, donc laisse-moi en paix, frère, on vend du shit aux blancs. Voilà. Et ça, c'est en vendu dans tous les magasins de disques.
Quel est leur impact sur les jeunes et sur les...
Alors, naturellement, tous ces tarés, tous ces dégénérés de banlieue, ils écoutent ça à longueur de journée. Ils ont la tête farcie par ça, comme il n'y a rien d'autre. Et qu'en face d'eux, ils ont un pouvoir de tapette, de dégonfler, qui passent son temps à dire, il faut leur donner encore plus d'argent. Oui. Ils ont brûlé j'entendais l'autre jour, ils ont brûlé des gymnases. Il faut les reconstruire tout de suite, sans attendre. Parce que si on attend, ils vont pas être contents.
Il faut qu'ils
brûlent des maternelles, ils brûlent des églises. Ils ont brûlé 4 églises. 2 dans le nord. Deux dans le nord. Pardon, décidément. Une à Tau et une à... Dans le sud-est.
À Romans.
À Romans, oui. Alors, vous voulez que je vous dise quelle a été la réaction des autorités? Eh bien, il y a un site qui s'appelle... Chrétien Info, qui a relevé les déclarations, enfin le déroulement des événements. 21h53, mosquée de Carpentras, solidarité de Sarkozy qui parle d'un acte indigne. À 23h45, Chirac condamne avec la plus extrême fermeté. À 2h40, le MRAP condamne une action islamophobe. À 12h15, le préfet du Vaucluse vient soutenir les musulmans. À 12h21, le CFCM, c'est-à-dire le machin de France des, je sais pas quoi, condamne
le culte musulman.
De Sarkozy. Condamne l'ignoble attentat contre la mosquée de Carpentras. À 13h21, SOS Racisme dénonce une incitation à la haine raciale. À 14h19, Borloo condamne un acte odieux et dit sa solidarité. À 14h33, le PS condamne avec force l'acte perpétré contre la mosquée de Carpentras. À 15h31, le PCF condamne l'attentat contre la mosquée de Carpentras. Alors il faut savoir que cet attentat contre la mosquée de Carpentras a consisté à jeter une bouteille contenant de l'essence sur le parvis de la mosquée, où ça fait une tache de brûler. Mais le carrelage, évidemment, n'a pas brûlé. C'est avec un coup de serpillière, c'était fini. Qui faisait à peu près 2 mètres carrés. On a vu les caméras de télévision se sont précipitées naturellement pour filmer l'atroce attentat. Et ce crétin de journaliste de télé dit « Les fidèles, en entrant dans la mosquée, font très attention de ne pas marcher sur la trace pour ne pas l'effacer. Hein » C'est vous dire à quel point c'était dramatique cet attentat. Pendant ce temps-là, je répète que 4 églises ont été gravement endommagées par des incendies criminels en France. Et la seule réaction, ça a été M. Sarkozy qui a adressé ses remerciements aux catholiques pour le calme dont ils ont fait preuve. J'espère que ça va durer moins longtemps que les impôts, pour tout vous dire, ce calme, parce que ça commence, moi, à me prendre un peu la tête, comme disent les jeunes aujourd'hui. C'est évident que ce calme est parfaitement honorable et respectable, mais je crois que c'est une mauvaise compréhension de la fameuse phrase « quand on frappe sur une joue, tant l'autre joue ». Je pense qu'il faut pas... Si on peut tendre sa joue à soi, mais on n'est pas obligé de tendre la joue du voisin. Ce qu'ont tendance à faire nos évêques, d'ailleurs... qui n'ont absolument rien à dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur ces choses-là. Alors là, si le silence règne sur toutes les colonnes du temple, personne ne se sent obligé de faire la moindre déclaration, sinon, comme Ricard et compagnie, pour reprendre les habituels calembredaine, ces jeunes, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'argent. Alors écoutez, ça, c'est vraiment... On peut plus supporter ce genre de mensonge. Ils n'ont pas d'argent, regardez les bagnoles qu'ils ont. Je répète que quand on a... Quand certains ont voulu mettre en comparaison, en connexion, les fichiers des cartes grises des voitures de luxe et les fichiers des aides sociales, en 2 jours, les fonctionnaires qui ont fait ça ont apporté plus de 200 noms de gens qui touchaient le RMI et qui se baladaient dans des bagnoles à 70 briques. Immédiatement, on a donné l'ordre d'arrêter. On a dit arrêtez cette interconnexion. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si vous allez dans les appartements des cités, partout il y a des antennes paraboliques qui reçoivent les radios arabes. Ça vaut pas 3 sous, ça. À l'intérieur, il n'y a pas un appartement qui n'ait pas au moins un grand écran en plasma, des DVD, des ordinateurs, des magnétophones, qui ont tous leur bagnole. Donc, l'histoire du fric, c'est pas vrai. C'est pas des gens fauchés, c'est un mensonge. D'autre part, quand ils vous disent qu'ils ne trouvent pas de travail, je voudrais qu'on m'explique comment un type sérieusement peut prétendre chercher du travail quand on voit celui qu'on a vu l'autre jour avec des dreadlocks sur la tête qui était habillé en caricature de parachutiste israélien avec un pantalon qui lui tombait au genou avec des taches de camouflage, la casquette de camouflage sur l'oreille, avec la visière sur l'oreille, un anneau dans le nez, un anneau dans l'oreille, et qui disait, partout je me présente, ils veulent pas m'embaucher, ils embauchent un blanc, ils veulent pas de moi. Mais, comme j'ai dit, même gratuitement, j'en veux pas de ce type. Donc, on nous raconte des histoires, ce sont des mensonges, et la seule véritable question, c'est de savoir si ces mensonges sont des mensonges de crétins, si les gens qui sont au pouvoir sont des crétins ou si ce sont des salauds. Selon moi, ce sont des salauds. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils sont en train d'organiser la destruction intérieure de la France, parce qu'on ne me fera pas croire que quand on fait d'une part la légalisation, le remboursement, la banalisation de l'avortement, d'autre part les portes ouvertes à n'importe qui pour entrer dans ce pays comme il veut, et à faire des enfants qui auront la nationalité française du seul fait qu'ils sont nés sur le territoire national, et que parallèlement à ça, on tolère que des émeutiers foutent le feu partout, cassent tout, ravagent tout, volent, pillent, violent, tuent, qu'on cache les crimes, comme ça a été le cas par exemple récemment à Nice, où on a prétendu que c'était en jonglant avec ses haltères sur son balcon qu'un type malheureusement a fait tomber son haltère sur la tête d'un passant. Mais vraiment, on nous prend pour des guignols, on nous prend pour des imbéciles. Quand on raconte que l'histoire de monsieur, de ce Breton qui a été tué à coups de poing n'a rien à voir avec les émeutes, alors qu'il avait été appelé dans la rue justement parce que les voyous maghrébins venaient de foutre le feu à une poubelle devant son immeuble. Quand on raconte que le photographe qui était en train de photographier un bec de gaz, ça n'avait rien à voir avec les émeutes, alors qu'il a été tué pardon, par des dealers qui justement ont organisé ces émeutes pour pouvoir échapper, pour pouvoir obtenir l'existence de territoires de non-droit où ils pourront faire tout leur trafic sans avoir la visite de la police. Ça avec la complicité de Sarkozy, puisque qu'est-ce qui se passe quand la police essaye de réagir? Que fait Sarkozy? Il sanctionne le policier qui a giflé un des voyous.
Lequel voyou on trouve le lendemain en train de caillasser les pompiers.
Lequel voyou est le lendemain en train de caillasser les pompiers. Alors que soi-disant, il était gravement blessé, puisqu'on a foutu un type, un flic en tôle, oui, pour l'avoir tabassé. Enfin, mais on vit dans un monde de dingo.
C'est hautement symbolique.
Ça devient intolérable, tout ça. Et quand Chirac vient faire son discours, il n'a que le mot République à la bouche. La seule fois où il dit le mot France, c'est pour dire qu'on va payer. Il a expliqué que c'était les enfants de la République, que la République pardon, ne tolérait pas la violence, ce qui se foutre du monde, parce que, pour autant que je me souvienne, si j'ai un peu retenu mon histoire de France, la République, elle est née dans un bain de sang. La République, c'est le fruit même de la violence, du crime, de l'assassinat et de l'émeute. Et maintenant, il nous dit la République ne tolère pas la violence. La République renie ses parents, alors. Elle renie sa mère.
On pourrait peut-être quand même apporter une précision. Le Canard Enchaîné de ce matin explique que Madame Chirac était furieuse de cette intervention, où elle dit à qui veulent l'entendre, je ne maîtrise plus rien, c'est ma fille Claude qui lui dicte tout. Donc, bravo,
Il y a quelque chose qu'elle maîtrise, c'est les comptes. Faites pas de bille.
Oui, ça c'est sûr. Pendant que je tiens le crash par 2 secondes, il y a plusieurs messages, ça va aller très vite, qui disent pourquoi vous n'envoyez pas tous ces textes à M. Sarkozy ou aux ministres concernés. Mais ils les ont, de toute façon. Ils les ont.
Ils les a, puisque.
Ils ont même le disque, sûrement.
Les policiers de la CFTC, de Action CFTC, qui sont venus dans cette émission déjà 2 fois, ont porté plainte contre ces textes. Naturellement, ça ne donne rien, tout ça n'aboutit pas. Comme d'ailleurs, je signale l'agression absolument scandaleuse, révoltante, contre Notre-Dame par une bande de dégénérés.
Pas de suite.
Déguisés en. Enfin, de je sais pas quoi.
Des grosses lesbiennes qui.
Oui, ben voilà. Bon. Eh bien, ça a été filmé en direct. On a les visages des agresseurs sur les bandes vidéo. Et le parquet répond que. Le dossier est classé parce qu'on n'a pas pu identifier les agresseurs. Mais s'ils avaient eu des photos comme ça de types en train d'agresser, d'attaquer une mosquée ou d'attaquer une synagogue, mais tout le monde sera en prison. Ils croient que ça va durer jusqu'à quand? Et jusqu'à quand d'ailleurs les catholiques français vont-ils tolérer des situations pareilles? Vont-ils tolérer d'être méprisés à ce point-là?
On n'entend pas beaucoup nos évêques prendre des positions.
Non, je parle des catholiques.
Hein. Ah oui, pardon, non, on ne parle pas de la même chose.
Non, on ne parle pas de la même chose. Alors voilà, tout ça donc, et maintenant, alors le grand truc, c'est de dire, mais tout ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam est une chose. C'est une religion de paix, de tolérance et d'amour et de progrès. Et ça n'a rien à voir avec les événements qui nous agitent en ce moment. Je viens d'en administrer la preuve du contraire, puisque je rappelle que dans une chanson, enfin une chanson, un rap que j'ai cité, là, il est très très clairement dit que ces gens-là se revendiquent de l'islam, ça n'est pas caché, c'est proclamé, c'est absolument proclamé. Ils se réclament d'Allah et ils se réclament du Coran pour voilà, Allah, à toi seul l'homme doit toute son adoration. Les vrais savent, on n'a pas oublié l'or que le pape porte au cou et celui qui nous a été pillé. Qui veut la paix prépare la guerre, je le rappelle, vote pour emmener les porcs à la morgue. Eh, négro, c'est l'heure de manger, voilà, c'est tout ça sous l'invocation d'Allah. Alors, ayant longuement parlé, je me taire maintenant, ça fera du bien d'ailleurs à tout le monde, à commencer par moi-même, et je vais peut-être me tourner d'abord vers M. Walter, qui a écrit un livre qui s'appelle « Crépuscule de l'islam », qui est un examen de la situation de l'islam. Alors vous semblez plutôt optimiste parce que vous vous posez la question de savoir si l'islam ne va pas vers son crépuscule et s'il n'est pas poussé par la mondialisation. Alors, est-ce que vous croyez que la situation qu'on connaît en ce moment en France confirme votre analyse ou votre hypothèse?
Oui, je pense. J'ai fait une vingtaine de conférences sur l'islam dans toutes les villes de France. Il y avait à chaque fois un tiers de musulmans. J'ai été frappé de voir d'abord que les filles musulmanes étaient beaucoup plus formées intellectuellement que les garçons, elles savaient réfléchir. Et également du fait qu'ils ne connaissaient rien à l'islam. Ils se disaient musulmans mais ils ne connaissaient rien à l'islam, ils n'avaient jamais lu le Coran. Quand je leur citais des versets comme le verset 91 de la sourate 4, « Assassinez tous ceux qui abandonnent l'islam », ou le verset 6 de la sourate 9 disant « Assassinez tous les polythéistes qui ne veulent pas devenir musulmans », ils étaient très surpris. J'avais amené des Corans, de façon à ce qu'ils puissent vérifier qu'effectivement ces textes y étaient. Et j'ai découvert que 90% à peu près des arabo-musulmans et 98% des kabyles musulmans récusaient absolument ces versets du Coran, déclaraient que le Coran, il fallait en prendre et en laisser. Et donc, ils étaient plus du tout musulmans. Un musulman qui déclare qu'une partie du Coran est invalide, comme c'est arrivé à un célèbre avocat au Caire, eh bien, il s'est fait condamner, il a été obligé de s'enfuir avec sa femme parce qu'on les avait divorcés de force, étant donné que, ayant déclaré que l'héritage des femmes, on pouvait peut-être se demander s'il ne devait pas être égal à l'héritage des garçons, il avait récusé le Coran par cette seule idée, et donc divorcé de force, puisqu'un musulman, un non-musulman ne peut pas épouser une musulmane.
Oui, mais vous ne croyez pas que c'est un peu une posture, ça, c'est, qui consiste à dire, non, nous, on prend, dans le Coran, on prend ce qui nous plaît, ou ce qu'on peut afficher, et puis ce qui n'est pas nécessaire de mettre en avant, on dit, oh ben non, c'est comme si ça n'existait pas, on n'en veut pas. Mais ce que je crois, c'est que le fait que ces jeunes voyous, ces jeunes bandits, ces jeunes gangsters qui se réclament de l'islam, le fait qu'ils ne connaissent rien à l'islam, ça n'a strictement, ça change rien à la situation. Qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas, ils s'en réclament. Et donc, on est en face d'un phénomène de coagulation.
Je crois que c'est très limité, que les voyous en question sont un petit nombre, on ne devrait jamais les laisser faire ce qu'ils font. Mais c'est cela qui représente le véritable islam,
un petit nombre,
de dire.
Moi je veux bien un petit nombre, enfin un petit nombre, quand même depuis en 15 jours ils ont brûlé je ne sais pas combien de milliers de voitures, ils ont brûlé je ne sais pas combien de dizaines d'écoles, d'églises, de commerces, de magasins, d'entrepôts.
Vous savez, 5% de 6 millions, ça fait 300 000 personnes, à 300 000 personnes on peut brûler beaucoup de choses.
Oui, mais ce n'est pas un petit nombre.
Quand je dis un petit nombre, c'est par rapport à l'ensemble des musulmans.
Lénine disait, donnez-moi, je ne sais plus combien de personnes, mais enfin quelques. C'est Goffman nous manque décidément pour les citations historiques.
Surtout celle-là.
Et je vous fais une révolution. Donc là, effectivement, ils n'ont pas besoin d'être 300 000. À 3 000, on voit, ou même à 40 dans certaines cités, on voit ce qu'ils font.
Certes, mais je crois que le problème essentiel, c'est peut-être pas la connaissance de l'islam, c'est la sensibilité islamique, parce que celle-là est formée.
Voilà, c'est ça.
Je vais vous donner un exemple qui m'avait frappé. Quand on a voulu faire jouer des beurs et des beurrettes au football ensemble pour que les garçons et les filles apprennent à se connaître, ils avaient refusé. Et les éducateurs leur ont dit, mais Allah faisait des courses de chameaux avec sa femme Aïcha. Ah, ils ont dit, ah bon,
oui,
dans
mais
ce cas-là,
pour la rattraper. Enfin bref.
Et ensuite, on a utilisé le même argument en 2004 en Arabie Saoudite, où il y avait l'incendie d'un lycée de filles, pour dire aux pompiers qu'ils pouvaient faire des activités communes. Mais là, ça n'a pas marché. Il y a 14 filles qui ont été brûlées vives. C'est-à-dire que la sensibilité en Arabie Saoudite ne permet pas d'accepter ce genre d'argument. En France, elle le permet. Les casseurs en question sont des gens qui ont la véritable sensibilité islamique, parce que l'islam, il ne faut quand même pas l'oublier, il s'est répandu par la force. Et une double force, d'abord la conquête, et ensuite la mise à mort progressive sur 3 siècles de tous ceux qui refusaient de devenir musulmans.
Je crois que c'est dans votre livre qu'il y a une démonstration assez... Il me semble que c'est bien chez vous. Et qu'il y a une démonstration de l'imposture qui consiste à dire que la djihad, ou le djihad, je ne sais pas ce qu'il faut dire, c'est en fait une victoire, c'est une guerre contre soi-même, contre ses mauvais penchants.
Oui,
c'est une guerre spirituelle. Alors, vous écrivez, si je ne me trompe pas, quelques lignes là-dessus, en mettant en lumière, je vais pas retrouver naturellement.
Mais je vais vous le dire.
Oui. En mettant en lumière le caractère aberrant de cette explication qui résiste pas à l'analyse.
Alors cette explication, elle vient des soufistes. On leur donne le nom de souf parce que souf ça veut dire la laine. Ils mettaient des manteaux de laine pour imiter les moines chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, les idées soufistes viennent du christianisme. Elles sont pas du tout musulmanes. Le premier soufiste a été à la fois écorché, c'est-à-dire qu'on a arraché la peau, ce qui est une manière abominablement douloureuse de mourir. Ensuite, on l'a crucifié, après on l'a décapité, enfin là, il était déjà mort, et ensuite on l'a brûlé. C'est-à-dire que c'était pas vraiment accueilli. Dans le Coran, il est dit que sont dispensés du djihad le boiteux, l'aveugle et l'infirme. Il ne s'agit pas de dispenser du combat spirituel un aveugle. Il s'agit de dispenser du combat physique. De même, le Coran précise la manière de répartir le butin. 4/5 pour les exécuteurs locaux, 1/5 qui doit être donné à l'État. Le butin spirituel ne peut pas se répartir 4/5, 1/5. Bon, il y a beaucoup d'autres éléments de cette sorte qui montrent que le djihad, c'est effectivement pas ce qu'on en dit quelquefois un djihad spirituel. C'est un djihad physique qui consiste à étendre le domaine d'Allah par la force. Et c'est comme ça, à part l'Indonésie, au début, que l'islam s'est répandu par la force. Et ensuite, en mettant un statut qui est le statut des dhimmi. Les dhimmi, on vous dira que c'est des minorités religieuses protégées. C'est 3 erreurs. D'abord, ce ne sont pas des minorités. Au début, ce sont des majorités. Au bout de quelques siècles, ça devient des minorités. Ensuite, elles ne sont pas religieuses. Par exemple, en Espagne, ce qui rassemblait les Ariens, les catholiques, les orthodoxes, dont il y avait un bon nombre à l'époque, les juifs et les païens contre les musulmans, c'était la nationalité. Et finalement, protéger, c'est protéger au sens d'Al Capone, c'est-à-dire qu'ils payent des impôts spéciaux qui servent à alimenter l'État musulman. Et s'ils ne payent pas ces impôts, ça c'est dans le Coran, ils sont mis à mort. C'est le seul cas où une religion prévoit la mise à mort pour retard fiscal. Bon, ceci a progressivement détruit les dhimmi. On leur enlève leur fierté nationale en interdisant leur langue, leur culture, leur tradition. En général, on les refoule. Si vous regardez les berbères en Afrique du Nord, en Maroc, ils sont dans l'Atlas et dans le Rif. Ils ont été écartés des plaines de force. Et il en reste à peu près 35%. Le reste a été massacré. En Algérie, ce sont les Kabyles qui sont dans la cordillère côtière. Et en Tunisie, il n'y en a même pas 1%. Ils ont tous été tués. Ils ne sont pas évaporés. Il a fallu réduire leur natalité par une situation d'humilié, un dhimmi n'a pas le droit de monter une monture noble comme un cheval ou un chameau, mais seulement un âne, et avec un bât, et dans la campagne et pas en ville. Sa maison doit être plus petite que la maison des musulmans. Ses vêtements doivent être sombres. Dans un certain nombre de cas, il devait porter une rouelle, c'est-à-dire un disque jaune. Notez bien, ce n'est pas une étoile. Bon, ceci conduisait à une dénatalité progressive, et c'est par la combinaison de dénatalité et de massacre que progressivement la Tunisie a été vidée de ses habitants, l'Algérie des 4/5, etc.
Cette méthode perdure aujourd'hui, puisque on a bien vu dans les manifestations lycéennes de l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus, quand ils attaquaient ce qu'ils appelaient les bolos.
Les bolos, oui.
Eh bien, ils se comportaient avec les bolos, comme ils disent, comme si les bolos avaient été des dhimmis. C'est-à-dire, on a entendu des interviews, les gars disaient, il faut qu'ils baissent les yeux.
Oui, c'est exactement ça.
Il faut qu'ils
baissent
les yeux. Et Le Pen récemment a été condamné pour avoir dit que bientôt, on serait obligé de descendre du trottoir. Or, on n'est pas obligé de descendre du trottoir, on n'a même plus le droit de sortir de son appartement dans certains quartiers. C'est quand même...
Il ne faut pas confondre les dhimmis et les harbis. L'islam divise le monde en deux parties. Le Dar al-Islam, qu'on a abrégé en islam, qui veut dire la maison de la soumission, et le Dar al-Harb, qui veut dire la maison de la guerre. Tout ce qui n'est pas soumis à l'islam doit faire l'objet d'une guerre. Les harbis, ce sont les non-musulmans dans les pays qui ont résisté à l'islam. Les dhimmis, ce sont les habitants dans les pays qui ont été envahis par des armées islamiques et qui ont perdu tous leurs droits politiques et la majeure partie de leurs droits civils.
Mais en France, ces rappeurs là, ils disent très clairement qu'ils se considèrent en terre d'islam, en terre conquise, ils le disent. Ils disent, ouais, voilà, on nique la France, bon, etc., ça c'est une chose, mais la France aux Français, tant que j'y serai, ça sera impossible. Ça dit bien ce que ça veut dire, ça.
C'est comme ça que l'islam s'est répandu, effectivement. On parle toujours de Poitiers. Mais Poitiers était un tout petit affrontement. 15 000 cavaliers musulmans ont rencontré l'infanterie lourde française et la cavalerie lourde et se sont repliés pendant la nuit. En fait, les gros combats, ça a été interminable. Ils sont entrés en France par Narbonne en 1719. Ensuite, ils ont ravagé toute la rive du Rhône. Ils sont montés jusqu'en Franche-Comté. En 21, ils ont été mettre le siège à Toulouse, et là, ils ont été écrasés. Dans les années 30, 730, ils sont remontés par l'autre côté des Pyrénées, puisqu'ils ne pouvaient pas passer par Toulouse. Et ils ont ravagé toutes les villes qu'ils ont trouvées, notamment Bordeaux. Ils ont mis le siège vainement de Beaupoitiers et ont été refoulés par Charles Martel. Mais Charles Martel a dû redescendre en 35, trois ans après, pour reconquérir toutes les villes de Provence. Il a dû partir parce qu'il y avait une révolte de Saxons. Il a dû revenir ensuite en 37 pour reconquérir une nouvelle fois les villes. Bref, ça a duré 40 ans de guerre incessante jusqu'en 59 quand Pépin le Bref a repris Carcassonne et Narbonne. Et au bout de ces 40 ans, le Var était complètement dévasté, une surface d'environ 10 000 km², il n'y avait plus un habitant. À force.
Alors c'est quand même intéressant de comparer ça avec ce qui s'est passé en Algérie après l'arrivée des Français. Les Français arrivent en 1830, en 1870, c'est-à-dire 40 ans plus tard, l'Algérie c'est une province prospère.
Alors quand on est arrivé en Algérie, il y avait 2 millions d'habitants, quand on est parti, il y en avait 20. Presque 20, pas tout à fait. Quand les musulmans sont entrés en Afrique du Nord, il y avait 5 millions de berbères. Trois siècles après, il en restait des tronçons, je l'ai dit, 1% en Tunisie, 20% en Algérie et 35% au Maroc. Ben, on ne peut pas dire que l'Algérie ressemble à la conquête musulmane, parce que la conquête musulmane s'est accompagnée de massacres, d'une dénatalité provoquée par le statut des dhimmis, d'expulsion de toutes les plaines. On voit d'ailleurs dans les Balkans aujourd'hui, les grandes villes sont dans les montagnes. C'est le seul endroit du monde où ça se trouve comme ça. Les grandes villes sont partout dans les plaines. Parce que les Turcs, qui avaient appliqué les mêmes statuts que les musulmans arabes, avaient chassé tous les habitants des plaines, et c'est des réfugiés qui avaient construit ces villes dans les montagnes. Bon, l'islam s'est fondé par la violence, s'est répandu par la violence, il théorise la violence. Quand on dit que c'est une religion modérée, on fait deux erreurs. La première, dire que c'est une religion, c'est une théocratie, c'est-à-dire une combinaison de politique et de religion. Et modéré, c'est extrêmement violent par le Coran. Je vous ai cité quelques-unes de ces... par les dhimmis, textes de Mahomet. Mahomet, c'est le beau modèle d'après le Coran, donc tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait est normatif, c'est-à-dire fait le fondement de la loi. Or, Mahomet disait à un musulman qui lui demandait « Est-ce qu'il n'y a pas une autre œuvre qui vaille le djihad ?» Et Mahomet lui a dit « Je n'en vois aucune. » Il a également dit que le djihad était la plus grande œuvre qu'un musulman pouvait faire sur terre. Le djihad, l'homme armé, lui-même, a fait 80 expéditions, 80 combats, 37 expéditions de pillage qu'il a organisées lui-même, où il a participé, 18 qu'il a organisées sans y participer. C'était le combat. C'était le combat physique. Et c'est par le combat qu'il a répandu l'islam. Eh bien, ceci, ça fait partie des gènes de l'islam. C'est pour ça qu'on le retrouve aussi bien chez les Turcs, 500 ans plus tard, que chez les Arabes. Et ce qui est grave, c'est la violence théorisée. La violence théorisée est très durable. La violence pratiquée par un violent d'occasion s'arrête avec la mort de ce violent. La violence théorisée subsiste aussi longtemps que la théorie subsiste. Et l'islam, ça fait 14 siècles. Et je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Et même les musulmans français qui ne connaissent pas l'islam, qui ne connaissent pas son histoire, qui ne connaissent pas le Coran, ils sont formés par cette sensibilité. Mais ce qui m'a frappé dans ces conférences, c'est que au moins 90% des musulmans de France n'ont plus une sensibilité islamique. Ils se disent musulmans, ils se croient musulmans, ils ne connaissent rien au Coran, et ils ont une sensibilité bien souvent française. Cela, il n'y a pas de problème.
Mais il n'y a pas de problème. Il reste quand même un problème de solidarité ethnique. Hein, même si l'islam est un petit peu effacé comme moteur ou comme référence, la sensibilité ethnique, elle continue à exister.
Il y a la solidarité ethnique, effectivement. Et puis un très gros problème avec ceux qui gardent la forme de sensibilité de l'islam et quelques-unes de ses idées aussi. Parce que dans ces excités, il doit bien y en avoir quelques-uns qui ont lu le Coran.
Mais selon vous, est-ce que l'idée d'une intégration dont on nous rebat les oreilles à jet continu depuis fort longtemps, mais alors depuis 15 jours, en ce qui me concerne, ça y est, c'est la saturation, est-ce que ça tient debout une seule seconde? Comment peut-on intégrer deux systèmes de pensée, deux systèmes de référence, deux systèmes de valeurs qui sont aussi radicalement différents?
On peut intégrer les personnes. On ne peut pas intégrer les valeurs de l'islam, en tout cas telles qu'elles sont exprimées dans le Coran, dans les hadiths, dans les élaborations des juristes, dans les justifications des théologiens. Non, ça c'est totalement incompatible. Dire que l'islam est modéré, non. L'islam prévoit l'infériorité de la femme, l'infériorité légale. Quand j'en parle avec des musulmanes, elles me disent « oui, mais on a une dignité particulière qui compense bien ». Et cette dignité vient d'un hadith que tout le monde cite tout le temps, le paradis est sous le pied des mères. Personne ne sait très bien ce que ça veut dire, mais elles se trouvent bien, un certain nombre d'entre elles, avec une infériorité compensée. Je leur dis, mais la France, c'est pas une infériorité de la femme compensée, c'est l'égalité. Vous ne pouvez pas avoir en France une inégalité acceptée.
Oui, enfin, entre nous, c'est quand même assez récent. Il faut bien reconnaître que moi, je suis toujours stupéfait de savoir que j'ai l'âge du vote des femmes. C'est quand même incroyable. C'est incroyable que dans un pays comme la France, il ait fallu attendre après la Deuxième Guerre mondiale pour que les femmes aient le droit de vote. C'est pas tout à fait du même ordre, je dirais, mais on peut comprendre d'une certaine manière que les musulmans soient bloqués sur certaines positions quand on voit à quel point ils sont différents de nous et à un stade différent de l'évolution des sociétés, et si on compare avec notre situation, nous. Je dirais la même chose d'ailleurs à propos de la polygamie. En ce moment, il y a un grand débat sur la polygamie. Faut-il accepter ou pas la polygamie? De toute façon, qu'on l'accepte ou pas, elle existe. Et à partir du moment où on accepte en France des gens qui sont des polygames naturels, d'une manière ou d'une autre, ils continueront à vivre leur polygamie.
Mitterrand l'était.
Mais c'est exactement ce que je vais dire. C'est quand même extraordinaire que dans un pays où, si vous allumez la radio, n'importe quelle radio périphérique, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ou si vous ouvrez n'importe quel journal féminin, ou masculin d'ailleurs, vous avez une célébration du vagabondage sexuel à toutes les minutes ou à toutes les pages, on vous dit que c'est tout à fait normal d'avoir deux ou trois maîtresses, que les femmes ont le droit d'avoir deux ou trois amants, etc. Et après, on vient nous pomper l'air parce que un pauvre ouvrier maghrébin de chez Renault a deux femmes dans son appartement. Je trouve que c'est vraiment se moquer du monde.
Je crois pas, parce que...
Je vais vous demander un instant, parce que je vois, on fait signe qu'on a un appel téléphonique, et c'est Paul-Marie Couteau qui va intervenir pendant quelques secondes, et je vous redonne la parole ensuite. Paul-Marie Couteau, bonsoir.
Oui, bonjour. Bonsoir, Serge de Beketch.
Alors, je vous ai demandé de prendre la parole ce soir dans cette émission, parce que La semaine dernière, je me suis étonné d'un propos que vous aviez tenu dans l'émission de Philippe de Saint-Robert.
Vous aviez raison.
Vous aviez dit qu'on ne pouvait pas annuler des naturalisations. En fait, il se trouve qu'on a raison tous les deux, parce que on ne peut pas annuler une naissance française, c'est-à-dire quelqu'un qui est né en France, de par le jus solis, le droit du sol, à la nationalité française, ne peut pas en être exclu. Et ça, vous aviez donc raison sur ce point, mais il y a un autre aspect, c'est les gens qui ont acquis la nationalité française par naturalisation, eux peuvent être exclus de cette nationalité.
Voilà, alors j'ai dit une bêtise, parce qu'en effet j'étais catégorique et général, et rapide, mais vous avez eu raison de rectifier, il est tout à fait possible de déchoir quelqu'un qui ne la mérite pas de sa nationalité quand elle vient d'être acquise. Cela étant, le problème reste intact pour... ce qu'on appelle si bêtement, si sautement les jeunes, c'est-à-dire les casseurs, ils sont, hélas, pour 80% d'entre eux, nés en France. Résultat de la stupidité de ce que Saint-Robert, à l'émission duquel je m'exprimais l'autre jour, a appelé un jour le tiercé de la catastrophe. Alors, le tiercé de la catastrophe, c'est Giscard, Mitterrand et Chirac, lequel Chirac d'ailleurs a été Premier ministre, et de Giscard et de Mitterrand. Ouais. Alors vraiment, c'est le pompon. Mais et c'est aussi lui l'auteur, en réalité Giscard a raison, c'est lui qui a voulu le regroupement familial quand il était Premier ministre en 75.
Alors, c'est pour ça que je ne pense pas du tout que ce soit une catastrophe à leurs yeux. C'est-à-dire que moi je fais partie de ces gens qui sont un peu complotistes et qui croient qu'il y a réellement un complot contre la France.
Ils l'ont voulu.
Et qu'ils ont fait quelque chose de parfaitement déterminé.
Nous sommes d'accord, Serge de Pécresse.
Et délibéré.
On pouvait penser, enfin la politique est quand même l'art de penser aux conséquences, on pouvait penser que certains d'entre eux, et notamment Jacques Chirac, que j'accable beaucoup parce que c'est à mettre en relation avec ses positions sur l'Europe en général, la Turquie en Europe en particulier. Enfin, il y a un prisme xénophobe. Pardon, xénophile.
Altérophile, on dit.
Oui, c'est ça, altérophile. Non, en réalité, il incarne ce sentiment, hélas, beaucoup trop répandu, pas chez les Français tout de même, qui sont tout simplement Français, qui sont ni xénophiles, ni xénophobes. Mais l'intelligentsia française est xénophile, c'est la préférence à l'étranger. C'est pour ça que le thème de préférence nationale, que Philippe de Villiers utilise maintenant, après Jean-Marie Le Pen, ce thème-là, au fond, vise au cœur l'intelligentsia française, qui donne la préférence sans cesse, sur tous les sujets d'ailleurs, à l'étranger. Et puis, en réalité, on peut le dire la même chose de Sarkozy, parce que son petit prurite là, qui caresse en permanence, consistant à donner le droit de vote aux étrangers, consistant à instaurer, par exemple, quant au diplôme, la discrimination positive, c'est-à-dire la discrimination négative pour tous les autres, quoi. Ça fait partie véritablement de ce bloc de pensée installé depuis 30 ans que j'appelle xénophilie, c'est-à-dire la préférence donnée à l'étranger. Et ça, Chirac incarne parfaitement, quoi. Dans le tiercé de la catastrophe, il a vraiment le pompon, et comme vous le dites très justement, Serge de Becquetch, je crois que c'était délibéré, quoi.
Oui, ça y ressemble. En tout cas, si c'est pas délibéré, alors véritablement, c'est quelque chose. Il est possédé par un démon, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Ou il fait ça avec toute son intelligence, qui n'est pas mince d'ailleurs.
Soit il est bête, soit il est criminel.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Ou c'est une intelligence criminelle, ou alors c'est le crétin le plus prodigieux de l'histoire de France. Je crois qu'on n'a jamais fait mieux.
Ouais.
Et quand on voit, par exemple, qu'il a envoyé, ça c'est parfaitement confirmé maintenant, pour le l'anniversaire de la Toussaint Rouge, il a envoyé ses félicitations à Bouteflika, et il paraît que, alors ça, sous réserve de vérification, j'en ai pas la certitude absolue, mais la quasi-certitude, puisque ça figure dans Al-Mujahid, que Douste Blasi est allé en personne participer aux cérémonies du souvenir du 1er novembre 54. Quand on en arrive là, je vais faire remarquer une chose dans le Libre Journal, c'est que Laval, lui, n'a jamais participé à aucune célébration de l'annexion de l'Alsace-Lorraine par les Allemands. Et on est vraiment là dans une situation...
Tout ce Blasine, c'est pas ce qu'il fait, ça. Alors,
oui, bien sûr, mais pourtant, il a une tête, elle est même plus grosse que la normale.
Vous parlez de Condorcet, oui, c'est ça.
Oui, il devrait y avoir un cerveau dedans, je sais pas.
Non, c'est un coton-tige.
Non, les diplomates qui sont pourtant gens de bonne compagnie et qui n'aiment pas les propos grossiers, l'appellent le Condorcet, n'est-ce pas, papa?
Oui, je trouve que c'est au quai du même nom.
Voilà, mais vous savez, il y a encore pire, au fond. Que pensez-vous, Serge de Bekech, de l'incroyable duplicité du ministre de l'Intérieur de Sarkozy? Parce qu'on n'y comprend rien. Enfin, le droit de vote aux étrangers, cette espèce d'obsession de l'islam, c'est lui qui a quand même dit le 16 juillet, j'ai fait rechercher par un de mes collaborateurs, et en effet, il a bien dit le 16 juillet 2002, je ferai sortir l'islam de la clandestinité. Il a eu de peine de cesse d'installer ce conseil français des musulmans, enfin des conseils des musulmans de France, enfin, à qui il a délégué des missions de service public sur le terrain. Enfin, il co-gère la sécurité publique avec les quelques barbus, quelques grands frères. Je suis sidéré de l'attitude de ce pompier pyromane, pas pour le ministre de l'Intérieur.
Si vous me demandez ce que j'en pense, je vais vous le dire. Moi, j'ai la certitude intime que certains personnages sont enflammés de haine contre l'entité française, contre ce qu'est la France. Simone Veil est un exemple. Nicolas Sarkozy en est un autre. Et c'est des gens qui utilisent tous les moyens de la subversion des esprits, de la subversion des textes, et de la subversion des populations, la manipulation des populations pour parvenir à leur fin. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels contre l'humanité. En tout cas, contre l'identité. Ça, c'est certain.
Quand on dit ça, on se fait accuser de paranoïa. Oui, mais bon. Des complots partout. Mais enfin, c'est tellement net qu'on ne sait pas comment ne pas le voir.
Voilà. Moi, j'en ai vu d'autres. J'ai déjà été accusé de tellement de choses que cette accusation-là me laisse de marbre. Voilà. Ce qui est certain, c'est que on voit le résultat de l'opération Sarkozy. Et ce qui est pire que tout, c'est qu'elle est pour lui extrêmement positive, puisqu'encore ce matin, il y a un sondage qui montrait qu'il avait gagné, je crois, 8% de 8 points de d'opinion favorable dans l'opinion publique. Par conséquent, ça veut dire que la stratégie qu'il développe, elle est porteuse, elle marche.
C'est celle du pompier pyromane.
Mais voilà, c'est ça. Il allume le feu, après il crie, et il se présente avec son beau casque. Son beau casque bien astiqué pour dire « Attendez, je vais vous éteindre ça en deux coups, les gros. » Et ce qui est effrayant, c'est que les Français sont devenus un peuple totalement abruti, totalement abruti, crétinisé, et qui ne voit pas que le type qui arrive avec son casque de pompier, c'est celui qui avait ses allumettes à la main 10 minutes plus tôt. Voilà, mais bon, je pense qu'ils vont le comprendre, dans la douleur. J'ai toujours dit que tant que les Français auraient plus peur que mal, ils ne bougeraient pas, et que le jour où ils bougeraient, c'est parce qu'ils ont plus mal que peur, et je crois que c'est en train d'arriver.
Contribuons à faire en sorte que les Français se rendent compte de cette espèce de piège. Et en effet, les sondages donnent raison à Sarkozy, mais c'est très fragile, parce qu'on sent bien que le personnage est tout de même plus qu'ambigu et au fond, indéchiffrable.
Et puis, il est d'une fragilité extrême. J'ai appris tout à l'heure que il avait convoqué, il est à la fois fragile et très culotté, je dois dire. Il a convoqué Place Beauvau un éditeur qui se préparait à publier un livre
sur sa femme,
un portrait de sa femme. Et je ne sais pas ce qui s'est dit dans le secret du bureau du ministre de l'Intérieur. En tout cas, l'éditeur en question est sorti en disant « le livre ne sera pas publié ». Alors, il explique bien le monsieur.
C'est Moscou en 1960.
Mais voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'a dit Madame Carrère d'Encausse. Ah ben. Nous sommes soumis à des lois qui sont des lois staliniennes. Et à des gens qui se comportent comme des crapules staliniennes, exactement.
Le ministre n'aime pas qu'on se mène de son intérieur.
Merci beaucoup d'être intervenu.
Merci, cher Serge de Bekech, de m'avoir permis de rectifier une bêtise dite chez Saint-Robert et que vous aviez relevé dès le lendemain.
Voilà. Mais il ne pouvait pas y avoir de malentendu entre nous plus longtemps, mon cher Paul Maricouto.
Très bien. Merci beaucoup.
À bientôt.
Bonne soirée, Serge.
Je fais tout de suite une insiste parce que je ne vais pas y arriver. Il y a plein de messages qui disent « Vous lisez pas les messages ». Alors, comme je remplace Victoria, que je vais me faire lyncher, je ne vais pas vous en lire beaucoup parce que j'ai fait des résumés. Il y a une avalanche de messages qui demandent comment on peut se procurer les textes de rap que vous avez lus.
Eh bien, ils sont dans le livre journal qui est paru ce matin. Donc, vous pouvez envoyer un carnet de timbre. Je suis moins bon que Goffman.
Un carnet de timbre, 4 places France Lys. Voilà. Bon, on reparlera du libre journal tout à l'heure.
75-010 Paris.
Voilà, je vais aller très vite parce qu'il y a quand même un message qui est assez drôle. Le polygame musulman s'enrichit avec ses femmes et ses enfants grâce aux allocations, alors que le polygame français se ruine avec ses maîtresses.
Oui, c'est vrai. C'est
bon, alors bravo pour votre émission. Nos dirigeants ne font rien car ils ont certainement reçu des menaces de mort. Ça me rappelle ce que vous disiez, que Daniel vous avait dit en les voyant à l'Assemblée nationale, c'est la peur.
Des poltrons.
Ce sont des poltrons. Si l'Algérie était restée française, l'islam serait la première religion de France et c'est signé le social haut de service. Alors maintenant, là, j'ai regroupé plusieurs messages sur Dizzy la peste. Alors il est invité partout. Donc, récapitulons, Dizzy la peste était invité ce samedi sur France 2 chez Ardisson. Il a déclaré, il faut que la France demande réparation pour son passé. En cela, il est aidé par les médias, par l'éducation nationale. On aurait pu ajouter par les francs-maçons, par les curés, etc.
Oui, oui, tout à fait.
Dernière chose, chers...
Mais la présence universelle, si j'ose dire, de ce jeune Dizzy la peste, elle est significative, parce que c'est le seul qui soit propre sur lui.
Voilà.
Plutôt joli garçon, très bien habillé, costume 3 pièces ou costume 2 pièces, élégant, il parle bien, on sent qu'il a fait des, il est allé à l'école, il a bien retenu les leçons. Et, il est le seul présentable.
Voilà.
Parce que tous les autres, toute la racaille dont j'ai lu les textes tout à l'heure, s'ils venaient sur les télés, mais ils sèmeraient la terreur, littéralement. Quand vous voyez les types de Nick Tamer ou de ce type qui a des dents en acier partout.
Ah oui, Joe Stark.
Joe Stark. Oui, et ces gens-là, vous avez vraiment envie de...
Non, il y a des femmes qui...
Voilà, enfin bon, je ne dirais pas ce qu'on a envie de faire, mais... Parce que ça tomberait sous le coup de la loi, mais moi je sais bien ce que j'ai envie de faire.
Encore 2 ou 3, puis après j'arrête, alors qu'il y en a plein. Que s'est-il passé à Roubaix le 9 novembre à 22h? 4 morts dans l'incendie d'un immeuble dans un quartier réputé tranquille. Les dépêches, tout en indiquant qu'on ne savait rien, se sont empressées de claironner que ça n'avait aucun rapport avec les événements. Depuis, silence radio sur ce drame.
Alors je veux dire, il y a un papier dans le Libre Journal qui est intitulé Roubaix, première ville musulmane de France, chaudron de sorcière de la guerre ethnique. Le 9 novembre à Roubaix, l'incendie d'un immeuble a tué 4 fois une fillette de 9 ans et 3 adultes, dont un par défenestration. Selon un pompier cité par l'AFP, le bâtiment situé dans un quartier élégant de la ville était sain et ne présentait aucun caractère de vétusté susceptible d'avoir causé ou favorisé l'incendie. Selon M. Olchevski, adjoint au maire chargé de la sécurité, le feu a démarré au rez-de-chaussée où se trouvait une agence d'intérim et s'est propagé par la classe d'escalier. Selon le maire de Roubaix, le socialiste Van Dieren, donc, toutes les hypothèses sont ouvertes. Et selon le procureur de la République de Lille, Philippe Lemaire, il est bien trop tôt pour déterminer la cause et l'origine de l'incendie. Ça s'est passé le 9 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 19 ?
16.
Le 16.
16. Nous sommes aujourd'hui le 16, il y a donc exactement une semaine. Et on n'a pas fait un pas dans l'explication. Or, le papier que je publie se termine comme ça. Les effets de cette potion maléfique se mesurent en cadavres, notamment ceux des victimes de l'incendie du 9 novembre, dont tout indique qu'il visait l'agence d'intérim, incarnation pour les gauchismes du libéralisme exécré, pour la racaille du travail quotidien détesté, et pour les islamistes d'un nouvel esclavage. Mais la lâcheté d'un pouvoir paniqué à la perspective d'une révolte du peuple français contre les prédateurs et la servilité de médias soumis au lobby de l'invasion ne permettront jamais que la lumière soit faite sur les circonstances réelles de ce drame. Voilà ce qui se passe.
Vous pouvez lire ce papier et bien d'autres intéressants sur le sujet et sur d'autres sujets dans le Libre Journal, dont je vous rappelle que l'abonnement c'est 110 euros pour combien de numéros
Toute l'année,
toute l'année 28 numéros. Mois, quoi, 28 à peu près. Alors vous envoyez votre chèque et votre demande d'abonnement au Libre Journal de la France courtoise, 4 place France Lys, 75 010, Paris. Pardon Patrick Goffman, je fais ce que je peux. Hein.
Alors je reviens vers mon interlocuteur, vers M. Walter. Voilà. Et la question était donc la question de l'intégration. Vous nous disiez qu'on peut intégrer des individus, mais pas des systèmes.
Non, on peut intégrer des individus qui sont pour 90% déjà intégrés, et pour quelques pourcents inintégrables, ça c'est un vrai problème, parce que quelques pourcents, ça fait quand même beaucoup de dizaines de milliers, mais on ne peut intégrer aucune des idées de l'islam, parce qu'on ne peut pas diviser la terre entre une partie qui doit faire la guerre et une partie qui doit se soumettre au système islamique. On ne peut pas dire que la femme est inférieure. Je vous rappelle quand même que la polygamie islamique, elle est fondée sur l'infériorité féminine. Je vais vous citer quelques... Parole de Mahomet directement. Il a dit, j'ai vu l'enfer, il n'y avait presque que des femmes. Il a dit, il y a eu des hommes parfaits, il n'y a pas eu de femmes parfaites. Il a dit, devant une assemblée de musulmans, vous savez qu'en justice, une femme n'a qu'un demi-témoignage. Les musulmans lui répondent, certes, nous le savons, mais c'est à cause d'une infériorité de son intelligence. Bon, il y en a des tas comme ça. La polygamie islamique, ça n'est pas seulement très déstructurant pour les enfants qui ont un père et plusieurs mères et qui voient les mères asservies. C'est déstructurant parce que ça avilit la femme. Et c'est à ce titre que c'est tout à fait différent de théoriser l'infériorité de la femme ou qu'un homme ait des maîtresses en violant les règles fondamentales de la République.
Sur les enfants, c'est l'effet le même. Hein. J'imagine que pour un enfant qui découvre que son père a des maîtresses, qu'il soit, ce soit des deuxième ou troisième femmes, ou deuxième ou troisième épouses, ou simplement des coquines qu'il va retrouver pour faire des galipettes, pour le gosse, le choc est le même. J'imagine, je sais pas. Moi, ça ne m'est pas arrivé, Dieu merci.
Il n'est pas
arrivé à mes enfants non plus.
J'ai vu un certain nombre d'études là-dessus. Il n'est pas le même parce que le père cache ses maîtresses. C'est-à-dire qu'il avoue que c'est illégitime.
Oui, tandis que la polygamie.
Alors que l'autre déclare que la femme est inférieure légitimement.
Enfin, en tout cas, ma position là-dessus, ma position moi, je disais que. On a le droit de donner des leçons, mais comme pour monter au mât de cocaïne, il ne faut pas avoir le caleçon braineux. Donc, dans un pays où on pratique l'avortement d'une façon parfaitement légale, où on pratique le divorce à tire-larigot, où on pratique la polysexualité tous azimuts à temps continu, on ne donne pas. De leçons sur ce plan-là aux autres. Voilà ce que je crois, très sincèrement. Moi, je suis absolument hostile à la polygamie pour des raisons tout simplement religieuses, parce que je suis pas musulman, et puis pour des raisons sociales, parce que c'est inadapté à notre système français. Mais je trouve que vraiment, c'est un terrain sur lequel on ferait mieux d'éviter de s'aventurer, parce qu'on risque d'être bien ridicule.
Je ne crois pas, parce que ce n'est pas la même chose de théoriser l'infériorité de la femme ou que des personnes, en tant que personnes, violent les lois morales ou les lois de la République. Les lois de la République, c'est la monogamie. À partir du moment où on admet un imam polygame à Lyon, bigame, on viole les lois de la République, c'est pas admissible.
Ah non, mais ça, je suis tout
tous
à fait d'accord.
Les polygames devraient être expulsés de France.
Les polygames devraient surtout ne rien toucher.
Non, ils devraient être expulsés de France. Ils violent une des lois fondamentales de la République, c'est la dignité de la femme. C'est extrêmement agressif, non seulement à l'égard des femmes, mais à l'égard de la culture française et de la tradition française. Non,
mais à ce moment-là, polygame... Écoutez, j'ai un exemple, paix à son âme, mais quelqu'un que... connaissait très très bien dans notre milieu, qui vivait chez lui avec deux femmes. Il avait sa femme régulière et sa maîtresse. Ils vivaient ensemble à trois. Bon, et celui-là, qu'est-ce que vous en faites? C'est bien de la polygamie.
Non, ce n'est pas la même chose de violer la morale ou de dire que la morale autorise l'infériorité de la femme. Parce que dans ce cas-là, on infériorise les femmes beaucoup plus gravement qu'en violant les lois de la République ou les lois de la morale. Et par ailleurs, le monsieur qui vivait avec sa maîtresse, c'était pas sa deuxième femme. Il ne mettait pas les deux femmes à égalité. Il y en a une qui était sa femme et puis l'autre qui l'était pas.
Aux yeux de la loi républicaine, comme on dit, ça, la loi républicaine, c'est un oxymore qui me plaît beaucoup. C'est comme la morale journalistique, vous voyez, c'est à peu près du même ordre. Aux yeux de la loi républicaine, il n'y a aucune différence puisque le mariage n'est pas reconnu, le deuxième mariage du musulman, il n'a aucune valeur. Donc, aux yeux de la loi, il vit avec une femme qui est la sienne, la première, et puis les autres sont des maîtresses. Enfin, on ne va pas perdre notre temps avec... c'est un peu...
Le propos de monsieur, au départ, on est parti sur la polygamie, comme ça, mais ce n'était pas tout à fait ça, c'était d'expliquer qu'il était, il y avait difficilement compatibilité entre la République et l'islam.
Il y a une compatibilité radicale.
Alors, justement, je ne voudrais pas ramener vraiment ma science, mais il se trouve qu'avant qu'il soit roi, je connaissais un peu le prince héritier, qu'il est vraiment plus difficile de voir aujourd'hui, et qui se plaisait, alors qu'il est maintenant le commandeur des croyants, à dire avec le sourire angélique qu'on peut lui connaître et sa très bonne éducation, l'islam n'est pas soluble dans une République.
Mais il a raison.
Alors, je voudrais me tourner maintenant vers M. Lagartan, parce que vous avez écrit, vous publiez là, tout récemment, un livre qui s'appelle « L'histoire des barbaresques ». Et je vais vous poser la question qui s'impose, me semble-t-il, c'est... Est-ce que vous voyez une correspondance, sinon de nature, du moins de forme, entre les barbaresques que vous nous racontez et les barbaresques que nous affrontons, ou qui nous affrontent plutôt, ou qui nous provoquent?
Oui, c'était la question que j'étais en train de me poser. Finalement, parler d'histoire alors qu'on est dans une telle conjoncture d'actualité dramatique, est-ce que ça ne tombe pas à côté? Alors... je vais essayer d'expliquer en quoi je pense que parler d'histoire maintenant est très important. C'est tout simplement par le fait que ce qui se passe aujourd'hui est très mal compris par l'opinion occidentale comme par l'opinion française. On s'interroge toujours, on se dit, mais comment peuvent-ils faire ça? Comment en sont-ils arrivés là, etc. Or, pour avoir une idée précise de cela... Il faut justement percevoir à quel point les musulmans sont imprégnés par 14 siècles de Coran, d'enseignement coranique. Et alors, comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Walter, que c'est ce que je supposais d'ailleurs, que beaucoup de musulmans et de jeunes musulmans qui sont réputés tels, en fait, ne connaissent pas du tout le Coran. Je pense qu'effectivement, ils l'ont pas lu. Mais qu'ils le connaissent, qu'ils l'aient lu ou qu'ils l'aient pas lu, ils portent en eux une imprégnation de 15 siècles d'enseignement et de proclamation du haut de la mosquée, avec une véhémence de haine qui s'exprime de Casablanca à Samarcande, de la même façon, n'est-ce pas, ceux qui sont autour des on ne comprend pas l'arabe, mais on comprend très bien le ton. Alors, ce qu'il faut à la fois réaliser de façon contemporaine cette mentalité, mais il faut aussi réaliser d'où elle vient. Or, elle vient de très loin. Et c'est en cela que donc que ce livre peut aider à comprendre.
Vous avez écrit un livre précédemment qui s'appelait Le Petit Guide du Coran.
Oui.
D'ailleurs, pour lequel je vous avais reçu.
Absolument.
Et qui était extrêmement intéressant parce que il était de la même valeur informative pour nous que le livre de Monsieur Walter. C'est-à-dire ça éclaire la réalité du Coran et son rôle exact, qui est bien plus qu'un livre de religieux. C'est un code de vie littéralement qui dicte chaque moment de l'existence, qui impose des comportements, qui impose toutes les valeurs de la société musulmane.
C'est un système politique.
C'est un système politique, oui. C'est plus que beaucoup plus que l'Ancien ou le Nouveau Testament même. Oui. Ça va beaucoup plus loin. Une des choses qui apparaissait dans ce petit guide du Coran, c'était que le Coran est effectivement, si j'ose ce mauvais jeu de mots, c'est ce Coran-là qui alimente la machine à broyer les populations qui a été.
C'est-à-dire qu'il faut le voir comme une imprégnation. Moi, j'en suis venu à comparer, si vous voulez, l'imprégnation coranique comme une drogue. C'est une drogue qui imprègne les esprits depuis 14 siècles. Et c'est une drogue dont les dealers sont les imams qui parlent du haut de leur minaret. Et vous comprenez, quand on est suffisamment drogué, on ne s'en rend pas très bien compte. Et la plupart de ces jeunes qui, justement, ne connaissent pas le Coran, eh bien, ils sont quand même drogués, parce que ils sont drogués par toute une tradition, et il faut comprendre comment est cette tradition. Alors, je vais employer une image évangélique, si vous voulez, qui est qu'il faut juger l'arbre à ses fruits. Et l'arbre, c'est le Coran, justement. Et ça a été ma première idée d'inventorier ce livre qui semble si mystérieux pour beaucoup de gens et qui est d'un accès difficile à cause du grand désordre dans lequel il est écrit. Et c'est ça, l'arbre. Donc, mon petit guide du Coran, si vous voulez, c'était vraiment l'étude statistique est donc une sorte d'anatomie de ce livre. Et mon deuxième mouvement a été de dire, eh bien, il faut voir ce qu'a donné historiquement cet arbre comme fruit. Or, les fruits de cet islam, eh bien, c'est au bas mot 1000 ans de guerre infernale qui ont absolument abaissé, qui ont été une catastrophe pour l'ensemble de la Méditerranée. Bon, alors, je ne sais pas si c'est intéressant du point de vue de l'actualité. Bon, je vais relier.
Est-ce que les mécanismes sont comparables?
Voilà. Alors, je réfléchissais à ça et je me disais que il y a quelque chose de frappant dans ce qui se passe, dans les événements qui se sont passés ces jours-ci, c'est le fait que l'adversaire est insaisissable. C'est-à-dire que il y a quelques affrontements avec les CRS, mais on se retire immédiatement et la tactique qui a été employée là est très intéressante parce que elle consistait justement à incendier un point, à fuir immédiatement, à incendier un autre, à devenir insaisissable.
C'est la technique du réseau, ça.
Et c'est même pas la technique du réseau, c'est la technique du pourrissement. du pourrissement d'un territoire par une destruction et par le refus, comme vous l'avez très bien montré dans vos citations, le refus absolu de l'endroit où on est. On refuse absolument toutes les valeurs, on refuse toutes les références, on refuse le territoire et l'état dans lequel on est hébergé. Voilà donc alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces tours d'horizon sur l'histoire, on se rend compte que c'est effectivement le comportement que nous voyons adopté par tous les envahisseurs musulmans depuis le début du 7e siècle jusqu'à pratiquement au 18e siècle. Alors... Et je ne sais pas par quel bout commencer, si vous voulez, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui vous intéresse plus spécialement dans la démarche.
Ce qui m'intéresse dans votre démarche, c'est qu'elle elle illustre parfaitement la phrase fameuse selon laquelle celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à recommencer éternellement les mêmes erreurs. C'est ça, je crois, Eric. Il y a une phrase qui dit quelque chose comme ça.
Je dois reconnaître que je suis très frappé par la description que vient de faire monsieur du pourrissement. Car j'ai eu l'occasion de lire il y a quelques mois l'histoire de la conquête du Tchad par l'armée française. Et la grande difficulté, c'était d'arriver à localiser les tribus qui étaient dispersées à travers les différentes oasis, et quand on arrivait à entrer en contact avec ces tribus, de pouvoir mesurer leur fidélité, leur infidélité, leur loyauté, leur déloyauté. Et à l'époque, n'est-ce pas, ces tribus pratiquaient l'esclavage dans des conditions qui sont totalement atroces, puisque les convois d'esclaves, hommes, femmes et enfants, n'étaient pas nourris. Et devait marcher encadré par des soldats d'une cruauté totale qui tuaient immédiatement quiconque tombait. Et c'était marche ou crève au sens littéral du mot. Il y avait des centaines de morts qui restaient derrière les caravanes d'esclaves. Et la grande difficulté des officiers français... qui étaient très peu nombreux, c'était d'arriver justement à localiser, à pouvoir mettre un lieu où il se passe ceci, un tel, on peut compter sur, et en particulier le sultan d'Abéché. Alors voilà des gens qui avaient de multiples loyautés, de multiples paroles, de multiples activités, qui étaient véritablement impossibles à contrôler. Et c'est ça, ce qui est mettre le feu, partir en courant, mais c'est exactement ce qu'ils faisaient au Sahara au 19e siècle.
Alors il y a eu donc une phase initiale où les armées sarrasines sont parties sur la base d'une organisation militaire forte avec de très gros moyens. Et ils sont arrivés par exemple devant Toulouse en 721 avec, paraît-il, 100 000 à 200 000
guerriers.
C'est absolument fabuleux. Oui.
Et alors, ça paraît d'ailleurs assez douteux parce que ça suppose une logistique phénoménale.
Voilà, mais
divisé sur le pays.
Mais il faut il faut comprendre ce qui s'est passé, parce que les différentes phases sont d'abord la conquête de la Syrie, de la Perse, puis d'Alexandrie, et ensuite les campagnes pour conquérir l'Afrique du Nord. Alors quand c'est difficile d'exprimer, si vous voulez, un regard géopolitique parce qu'on n'y est pas habitué. Et quand on découvre 1000 ans d'agression musulmane en Méditerranée, et dans tout le pourtour, on est effaré, on s'est dit, mais enfin, 1000 ans, c'est incroyable. On ne peut pas arriver à cerner tout cela. Et pourtant, il faut arriver à le faire parce que c'est cela. C'est-à-dire que le processus de conquête et d'asservissement, de djihad et de dhimmitude a régné pendant vraiment 1000 ans. C'est quelque chose.
Et la nappe phréatique a baissé de 40 mètres.
Alors, il y a eu plusieurs phases. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont conquis la Syrie, Ctésiphon, la Perse et puis Alexandrie? C'était des pays très riches. D'ailleurs, la Syrie, la Palestine et l'Égypte faisaient partie de l'Empire byzantin. Et c'était un empire prospère. Et la Perse était un empire prospère. On thésaurisait énormément d'or dans les endroits. Et c'est ce qui a fait, si vous voulez, les moyens énormes qu'ils ont pu développer. Une guerre a toujours coûté très cher. Or, vous vous rendez compte qu'ils ont fait une guerre depuis 730, si on veut, jusqu'à depuis 630 jusqu'à 719. C'était des campagnes continuelles d'un siècle. Quels moyens a-t-il fallu pour cela ? Eh bien, ce sont les moyens, ce sont l'or des empires qui ont été le moteur de ce que j'ai appelé le cyclone islamique. Parce que c'est un véritable cyclone, si vous voulez, qui est parti donc de la Syrie, qui a remonté le Maghreb, l'Espagne, et jusqu'à Autun, comme vous le disiez tout à l'heure.
Il y a deux mots qui reviennent beaucoup dans votre livre, c'est prédateur et cyclone.
Voilà, donc, alors, cette idée d'une, le problème de prédateur,
c'est le tigre de Tasmanie, comme dans les dessins animés, qui ravage tout sur son passage.
Oui, alors, nous en sommes au niveau de l'image du cyclone, si vous voulez, parce que j'aime bien cette image du cyclone parce qu'elle a duré, elle a perduré.
Et puis le cyclone s'auto-alimente.
Et le cyclone s'auto-alimente. La preuve, c'est que ils ont d'abord pris l'or de Ctésiphon, puis celui d'Alexandrie, et après ils ont pris le trésor des Visigoths de Tolède. C'est pas la peine de chercher le trésor des Visigoths quelque part, n'est-ce pas?
Non,
il était à Tolède, figurez-vous, et au fur et à mesure que ils avançaient, donc ils avaient des moyens de plus en plus grands.
Alors, monsieur Lafont, je voudrais pas qu'on raconte votre livre, parce que c'est un livre d'historien, et il est tout à fait passionnant.
Et puis parce qu'il faut surtout le lire.
Mais il faut le lire, bien sûr. Parce qu'on a... Est-ce que je voudrais, en deux minutes, c'est que vous me disiez, après on passera à un autre aspect de la question, si vous avez l'impression que la lecture de votre livre aujourd'hui, L'histoire des barbaresques, peut aider à la compréhension de ce que nous vivons, d'une manière ou d'une autre.
Oui, mais bien sûr, mais je peux y répondre d'un mot, c'est-à-dire que c'est à travers tout ce passage du cyclone islamique qui a duré pendant 10 siècles, pratiquement, enfin, au moins 5 siècles, puis ensuite ça a été le relais par les Turcs, mais qui était un autre cyclone, et c'était aussi un cyclone terrible. Eh bien, à travers cela, c'est à travers cela qu'on peut vraiment comprendre ce que c'est que le djihad et la dhimmitude. Parce que là, ce sont les faits, si vous voulez, ce sont les fruits justement de l'arbre islamique. Et bon, il faut essayer de le raconter. Alors, ces fruits ont quelque chose de spécifique, et c'est là où il faut faire des comparaisons. Alors, pour nous, par exemple, Français, ayant appris l'histoire comme on l'apprenait autrefois, les grandes invasions, c'est les invasions germaniques. Hein, on est d'accord?
Oui, il y a les Mongols, les Huns aussi.
Oui, non, mais quand on dit les grandes invasions, c'était celles qui ont affaibli, qui ont pénétré dans l'Empire romain.
Ah oui. Hein,
c'est les invasions germaniques. Mmh. À la rigueur aussi les Vikings, enfin tout ce dont a souffert finalement notre territoire en tant qu'appartenant à l'Empire romain.
Ouais. Je vais vous demander deux minutes de patience parce que nous faisons la coupure technique et je vous redonne la parole dans quelques instants.
Merci de passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie. Je vous rappelle qu'à 21h tout à l'heure pour les soirées musicales, vous avez rendez-vous avec Claudio. Le programme à 21h, la discothèque pour connaisseurs et amateurs. À 22h, les musiques de films. Et à 23h, les grands pianistes. Ce soir, Christian Zimmermann avec des œuvres de Bartok et notamment le concerto numéro 1. À 21h tout à l'heure et puis tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Thank you. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, diffusé en direct mercredi 16 novembre 2005 de 18h à 21h, en différé jeudi 17 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Bien, ou alors il faut pas citer le journal. Je réponds à Éric Lebec qui nous racontait une anecdote intéressante et significative d'ailleurs, mais si on cite le journal...
Je ne cite pas le titre du journal, mais il y a quelques années, les voitures brûlaient dans la banlieue de Lyon et un de mes très bons amis qui est Patrick Chauvel était dans une voiture de police en attendant qu'il se passe quelque chose. Et puis arrive une voiture plutôt jolie qui se gare à peine et qui met le feu à une voiture. Et puis qui prend tranquillement des photos. Alors évidemment, la police et mon ami Patrick sortent et se saisissent de ces personnes qui étaient des journalistes et qui faisaient leur reportage.
Ouais, c'est des évolés de douaneaux, quoi.
Oui.
Alors, je vais vous lire quelques messages
Le choc d'une photo.
Je me fais enguirlander par tout le monde parce que j'en lis pas assez, mais moi je suis plus sévère que Victoria. D'abord, je regroupe parce qu'il y a des messages qui se doublent, donc c'est pas la peine de lire 50 fois la même chose. Et puis, j'ai pas vocation à me faire engueuler. Hein. Alors déjà, les choses sont claires. Alors je vais en lire un sympathique qui dit « Concernant l'abrutissement du peuple français, il n'est qu'à regarder l'émission Star Academy dont le succès ne peut qu'inquiéter. Bravo. Quant à nos dirigeants, ils cumulent l'incapacité et lâcheté. À l'inverse, le courage dont vous faites preuve mérite un grand coup de chapeau. » Alors ça, ce genre de message, je les lis. Bien d'accord. Il y en a un qui est intéressant. On nous dit que M. de Villepin, qu'il y a vécu, donc c'est normal, va se rendre au Maroc pour les festivités de les 50 ans d'indépendance du Maroc. Eh bien, on nous dit qu'il va partir avec une enveloppe de 150 000 euros. Alors la personne qui vous envoie ce message dit c'est curieux parce que nous sommes un pays qui n'est plus solvable. Il y a un message aussi qui est plein d'intelligence qui dit relisez ou lisez et faites de la publicité pour l'ouvrage de Céline, Bagatelle pour un massacre, édition de Noël. Tout y est, la définition de Sarkozy est donnée, 85% de culot, 15% de vide. Le droit du sol est acquis à tous ces jeunes nés en France, mais si je ne me trompe pas, ils ont également la double nationalité, celle de leurs parents. Alors ne faut-il pas rétablir le bannissement qui existait pour les Français de souche et les expulser au nom de leur nationalité d'origine ? Point d'interrogation. Ces jeunes n'ont aucune raison de réclamer quoi que ce soit. Ils ont eu l'école républicaine comme tous les Français. Pourquoi refusent-ils d'étudier ? Mais ils peuvent plus puisqu'ils les ont brûlés. Je n'ai pas de leçon. Alors je le lis, c'est vous qui m'avez dit de le lire.
Moins vite, Marquis, qu'on connaît le temps de vous écouter.
Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il faut en passer un maximum de messages.
Il faut qu'on vous écoute.
Laissez-moi parler, comme ça on gagnera du temps. Je n'ai pas de leçon à recevoir en termes de nationalisme intégral de M. Serge de Beketch. Malheureusement, c'est grâce aux libéraux. libéralisme économique de M. Sarkozy que la France pourra retrouver les moyens de sa conquête, de sa reconquête. Merci de votre émission.
Oui, voilà, ça, je crois que c'est, là, c'est un débat qui, qu'on peut même pas ouvrir parce que c'est rêver que le libéralisme économique à la Sarkozy va régler les problèmes de la France, ça relève de...
Il y a quand même un petit problème technique. Un auditeur qui s'étonne qu'on ait été coupé quelques minutes. Alors, c'est un auditeur qui vient de naître. Il faut savoir que depuis le début de Radio Courtoisie, à un moment, on retourne la cassette pour les gens qui achètent des enregistrements. Donc, pendant quelques minutes, on est coupé. Mais ce n'est pas du tout parce qu'on tenait des propos qu'il ne fallait pas tenir.
Non, non. Mais, c'est bien la preuve qu'on a sans arrêt de nouveaux auditeurs et c'est bien agréable. Alors, je redonne maintenant la parole à M. Lagarfin et pour qu'il finisse de répondre à cette question. En quoi le contenu de son travail d'historien peut-il nous aider à comprendre la situation actuelle ?
Parce que justement, en fonction des événements actuels, les gens ne comprennent quand même toujours pas. Et on entend cette question se poser tout le temps. Alors bon, on cherche les raisons dans le social, dans l'ignorance, etc. Bon, mais on ne dit jamais, on se garde bien de dire c'est un problème qui vient de la religion. Et la religion, c'est le Coran. Alors pour faire comprendre cela, il faut effectivement remonter toute l'histoire, surtout que cette histoire nous est complètement voilée. Vous en savez, vous en rendez bien quelque chose. Elle est voilée, elle est, l'islam s'avance masqué. Quand on vous dit, par exemple, que cette civilisation andalouse qui a transféré vers l'Occident la connaissance des Grecs, etc., c'est absolument incroyable d'entendre cela. Mais on vous sert ça d'une façon continuelle.
Oui. Mais d'ailleurs, il n'y a qu'à voir. C'est vrai que l'effet civilisateur, quand on lit les textes des rappeurs, on voit très bien que c'est effectivement une civilisation en marche.
Bon, alors, d'autres auteurs ont dénoncé ça d'une façon importante, notamment Madame Delcambre, qui a fait un bouquin spécialement là-dessus pour réfuter ce genre de propos. Mais c'est absolument intolérable. Mais on répète indéfiniment, et plus on répète évidemment, plus les auditeurs pensent que c'est vrai, parce que quand tout le monde dit la même chose, c'est une vérité. C'est terrible. Alors, il faut. Je vais vous citer par exemple un exemple d'histoire complètement oubliée par l'opinion française, par les Français en particulier. C'est le sort qui a été réservé à la Provence. La Provence a été accablée par les Sarrasins à l'époque, non pas pendant 50 ans, pas pendant 100 ans, mais pendant 300 ans au moins. Les Sarrasins ont débarqué, si vous voulez, vers 725 de l'autre côté du Rhône. Ils ont commencé à piller, ils ont été refoulés une première fois par Charles Martel, et il a dû revenir deux ans après, parce que c'est l'histoire du pourrissement, si vous voulez. Lorsque les Sarrasins se trouvent en présence d'une force importante comme étaient les Francs, ils ne résistent pas. Chaque fois qu'ils ont rencontré les Francs, ils ont eu une défaite. Mais une défaite devant une armée, normalement, doit se traduire par le constat de cette défaite, une décision quelconque qui interrompt la guerre. Avec les musulmans, jamais. Avec les Sarrasins, non. Charles Martel vient donc libérer toutes les villes de Provence. Et il repart, appelé ailleurs par d'autres soucis, mais il n'a pas de police à mettre sur place. À l'époque, il peut pas quadriller le territoire. Les Sarrasins se sont dispersés dans les hauteurs, dans les montagnes, dans les collines. Et deux ans après, ils sont revenus. Ils sont de nouveau sur Arles, ils sont de nouveau sur Avignon, sur Marseille, sur Cimiez, etc. Il revient, et de nouveau, il les expulse. Mais c'est de nouveau un coup d'épée dans l'eau. Et il se retire, si vous voulez, sur ces îles qui sont proches de la Méditerranée, de la côte méditerranéenne. Et ces îles, pendant quatre siècles, sont de véritables équivalents, si vous voulez, des frères de la côte. Ils sont restés là. Et il y a eu en particulier, au IXe siècle, cet abcès extraordinaire de Fraxinetum, qui est donc la garde freinée, qui est dans le massif des Morts. Et il y a eu là un abcès de fixation de ces pirates qui ont absolument continué pendant un siècle à piller toute la Provence. Et ceci est absolument absent de l'histoire, de la mémoire française. Alors, pour souligner, si vous voulez, j'ai cherché, moi, dans ce livre, à souligner le caractère tout à fait spécifique, particulier, de l'agression musulmane, de l'agression sarrasine d'abord et turque ensuite. Et pour situer cela, il faut le comparer, comme je vous le disais, à d'autres invasions importantes que nous connaissons mieux, qui sont justement les invasions germaniques. Eh bien, ces invasions germaniques, elles ont été terribles. Les plus terribles ont été les Vandales. Et les Vandales ont sévi, si vous voulez, ils ont conquis justement Carthage. Et ils sont, pendant un siècle, ils ont fait du piratage en Méditerranée. Mais ils ne l'ont fait que pendant un siècle. Entre 430 et 530 exactement. Puisque c'est en 430 que... Hippone, où était Saint-Augustin, a été pris. 4 ou 5 ans après, ça a été Carthage. Ils se sont installés là pour un siècle. Et ils ont profité des équipements, si vous voulez, de maritimes très importants qui étaient à Carthage encore à l'époque, puisque ça a toujours été un empire maritime. Et ils ont transformé ça, si vous voulez, en moyen de pillage de la Méditerranée, puisque même Jean Séric a pillé Rome en 467, je crois, quelque chose comme ça. C'est dire que c'était important. Mais ça n'a duré qu'un siècle. Et les Germains en général, les Gaules, les Visigoths, les Francs, etc., ils ont fait des ravages en Gaule, ils ont fait des ravages en Italie, les Visigoths se sont installés en Espagne et autres, mais au bout d'un siècle ou deux, ils s'assimilent. Et ces gens-là n'étaient pas, si vous voulez, ils ne haïssaient pas l'Empire, ils l'enviaient tout simplement, ils venaient pour en profiter, et ils ne demandaient qu'à progressivement s'insérer dans la société, et à leur tour devenir des éléments productifs de ces territoires.
Effectivement, on voit très bien la différence.
Or, avec les musulmans, ça a duré donc d'une façon continuelle. Et c'est pour ça. Alors, ils ont ce caractère de prédateur. Alors, pour situer le caractère prédateur, il faut remonter assez loin et voir ce qu'a été dans l'histoire les drames des empires qui ont toujours été attaqués par des prédateurs qui étaient des nomades, des peuples nomades et vivant de la chasse et de l'élevage. Bon, alors ça c'est une comparaison si vous voulez qui est assez...
Oui, mais c'est une comparaison qui existe par exemple au Tibet où les tribus Kampas qui sont des tribus nomades ont toujours été une menace terrible pour
Je fais une comparaison si vous voulez.
Ah,
oui, ben bien sûr.
J'ai pas lu votre livre.
Et oui, bon. c'est pour ça que c'est très difficile à exprimer si vous voulez en quelques mots. On voit si vous voulez le caractère très particulier. Alors pour résumer, je vous dirais que finalement les prédateurs, parce qu'ils sont restés prédateurs, ces musulmans, ils ont vécu essentiellement sur les richesses qui étaient accumulées. Ils commencent par épuiser l'or en procédure guerrière, n'est-ce pas ? Tout l'or des empires. Ensuite, ils pressurent les populations productrices, qui sont essentiellement les agriculteurs, par l'impôt. Alors, l'impôt est déjà très fort, les gens sont paralysés, ils produisent moins. Comme ils produisent moins, il y a moins d'impôts, on augmente l'impôt, etc. Et donc, il y a un processus.
Vous parlez du Crédit Agricole, là.
Oui. C'est exactement ça. Non, mais là, c'est exactement la situation actuelle.
Bon, alors, il faut comprendre. Alors, le résultat de tout cela, c'est que ces territoires du pourtour méditerranéen, de la Méditerranée occidentale, si vous voulez, qui est l'Italie, la Sicile, le Maghreb, l'Espagne et la Provence, qui était des terres prospères. Cette Méditerranée était un secteur tranquille et où on pouvait commercer sans trop de danger. Eh bien, ce qui était avant le 7e siècle est devenu un espace de brigandage, un espace de régression complète. Et quand on fait une comparaison aussi importante, il faut polariser un peu l'attention sur un point particulier qui est justement la Tunisie. la Tunisie qui, à l'époque de Saint-Augustin, c'était un des greniers de l'Empire romain. C'était un territoire tout à fait fécond. Il y avait beaucoup de villes. On sait très bien le nombre de vestiges romains qu'il y a en Tunisie, extraordinaire. Et cet espace particulier qui était donc un des espaces les plus productifs du territoire de l'Empire romain, en quelques siècles a basculé et est devenu ce territoire lamentable que les Français ont trouvé en 1830 ou 1850, n'est-ce pas ? Et c'est la même chose pour l'ensemble de la Méditerranée. Alors, il faut savoir aussi que la Sicile a été occupée pendant deux siècles et a été finalement libérée par les chevaliers normands qui étaient les descendants des... Bon, alors, tout ça, ce sont des faits, si vous voulez, qu'il faut voir et qui montrent le caractère bien particulier de prédateurs, puisqu'ils sont prédateurs parce qu'ils vivent sur l'habitant, et d'autre part, ils vivent de l'esclavage, c'est-à-dire quand ils ont réussi à décourager tous les producteurs indépendants, eh bien, il n'y a plus qu'une solution, c'est de faire l'esclavage. Alors, je décris un peu rapidement ce que Jacques Hers a dit dans son livre très important, que l'esclavage, si vous voulez, toutes ces côtes méditerranéennes ont fait l'objet de prélèvements d'humains pendant des siècles.
Oui.
Et Alger et Tunis étaient des lieux, et étaient des cités pirates, si vous voulez, où il y avait des bagnes, comme il y avait par exemple 20 000...
Il n'y a pas d'art nègre dans l'Afrique de l'Est, parce que les populations étaient...
C'est pas des nègres, là. Ce sont des Provençaux, des Espagnols, des Italiens, qui étaient capturés, et évidemment, mâles et femelles, n'est-ce pas ?
Monsieur Ayrton, je vous remercie de cette fresque rapide. Il faut lire votre livre, qui est passionnant. En plus, il est d'une lecture très facile, parce que ce sont des chapitres très très courts et très, très précisément orientés. Je voudrais me tourner vers...
Monsieur Lagartempe m'avait prié, pardonnez-moi, d'indiquer que demain, jeudi 17, de 15h à 18h, à la librairie Duquesne, il dédicacera ses œuvres, et il fera la même chose à la librairie Clovis, rue du Petit Pont, le 19 novembre, de 15h à 18h.
Voilà. Très bien. Alors, Paul Abalin, vous êtes ici, vous avez écrit plusieurs livres sur les harkis, la dernière harka, et puis là, vous publiez Les Soleils Noirs de la guerre d'Algérie, et la question que je voudrais vous poser, c'est, ça peut paraître une question un peu saugrenue, mais vous avez vécu, vous, l'expérience de la vie au quotidien, avec des populations qui étaient des populations ralliées, enfin avec des soldats qui étaient des Algériens ou des Kabyles qui étaient restés loyaux et fidèles à la France. Et est-ce que cette expérience vous permet de dire que il y a une petite lueur d'espérance de retrouver cette harmonie entre des populations aussi différentes sur le territoire français? Pour être clair, est-ce que vous croyez que il est envisageable qu'un jour nous arrivions à vivre en harmonie avec des populations comme celles qui occupent les territoires de banlieue aujourd'hui?
Moi, je connais bien que les harkis, hein, si vous voulez, et ce qu'on appelait les FSNA, les Français des choses nord-africaines, qui étaient nos soldats au même titre que les FSE en Algérie. Alors, je les ai retrouvés, si vous voulez, depuis 30 ans en France, et j'ai vu donc les pères, les harkis. Mais la plupart d'entre eux, ces harkis actuellement, sont soit morts, soit malades. Donc, je ne travaille plus actuellement qu'avec les fils, les petits-fils, filles et petites filles de ces harkis.
Alors, quels sont leurs discours?
Alors, leur discours à eux, ils nous voient plutôt avec une certaine sympathie, hein, les anciens de la guerre d'Algérie, si on leur parle librement. Contrairement à vous, ils ne parlent jamais du Coran, jamais. Je n'ai jamais de discussion sur le Coran avec eux, ni avec les fils et petits-fils, jamais. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est un peu un reproche que je leur fais. Ils ont la main tendue, ils attendent des offres. Qu'on leur apporte du travail, qu'on leur apporte des places privilégiées. Il n'y a pas assez parmi eux de meneurs, de punchers qu'on voudrait lever, si vous voulez, pour qu'ils prennent les affaires en main. Mais disons, ça se passe quand même dans un climat de sympathie. Alors moi, je mène ces actions actuellement à Rouen et à Amiens. Et donc, mon gros souci, c'est de susciter parmi les fils et petits-fils des gens à qui je mets un projet économique entre les mains, je leur dis comment je fais, je les mets en contact avec tous les gens que je connais à la préfecture et partout, et je leur dis maintenant, prenez-le enfin à votre compte. Il s'agit d'un projet notamment de informatique, de se faire donner des ordinateurs pour les grandes firmes, de leur apprendre les principaux logiciels, et de leur dire, eh ben voilà, dans tous vos métiers, vous ce sera sous-tendu un petit peu par l'informatique, je vais vous former et prenez ça en main. J'ai du mal à trouver des leaders. Hein. Mais il n'y a pas de question, comme vous dites, de courant. Hein, tout ça n'existe pas. Donc ils attendent qu'on leur apporte des idées et que ça marche.
Ils sont différents des autres, des autres populations qui ne sont pas harkis.
On ne voit pas les autres.
On ne les voit pas les autres. Les autres, vous ne les voyez pas.
Pas du tout. Pas du tout, parce qu'eux sont assez mal vus par les autres.
Donc les harkis dont vous nous parlez sont séparés.
C'est pro-français.
Pro-français. Et ces pro-français sont, on peut dire, ostracisés.
Par les autres en partie, oui. Oui. C'est une salle un peu, oui.
Alors, Paul Abalin, on va pas parler beaucoup de votre livre ce soir parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et puis c'est un peu particulier.
C'est la torture.
C'est la torture et c'est cinq personnages, Ossarès, Léger, Argou, Hérulin et Mialet. Qui sont autour desquels.
Qui ont plus ou moins bien surmonté la torture, bien ou mal. Hein. Ils sont très brillants, par exemple, je vous dirais Léger. Hein. Léger, c'est le fameux capitaine qui a injecté le virus de la bluite au Fell et notamment à Mirouche, et qui était un type vraiment remarquable, je dirais, à tout point de vue. Argou, je l'ai très bien connu pendant plus de 10 ans, et Argou aussi, sa position sur la torture et sa façon de travailler, notamment en opposition avec Bollardia, est remarquable. Par contre, Ossarès, je m'en excuse de vous le dire, c'est un véritable ordure, hein, je vais vous le dire, je l'ai pratiqué pendant 5 mois, hein, avant d'écrire tout ça, Ossarès. Ossarès, c'est vraiment une ordure invraisemblable, indigne. C'est l'indignité de l'armée, je m'en excuse. C'est tellement, on n'accepte pas de faire ce qu'il a fait, hein. C'est une sorte de schizophrène, et qui vit dans une espèce de monde à lui, soutenu par les gaullistes, bien sûr.
De toute façon, s'il est vrai qu'à partir de 45 ans, on est responsable de sa gueule,
c'est signé. Mais, si vous voulez, il est schizophrène, il vit dans un monde un peu comme de jeu électronique, si vous voulez, virtuel. Et on lui dit, tu butes les gens, hein. Il bute les gens. Mais il en bute 3500, faut faire attention. Hein. Il en met une balle froidement dans la peau. Et on m'a dit de le faire, donc je le fais. Et puis on lui donne des étoiles. Jeter les étoiles en l'air, il y aura toujours un képi pour les ramasser, comme dit De Gaulle. Hein. C'est le prototype du petit voyou. Hein.
Il a commencé par lui-même, d'ailleurs, à propos de Gaulle.
Il a cravaté par De Gaulle, exactement. Par contre, Hérulin est un cas extrêmement grave. Hérulin, moi je l'ai connu quand je sortais de Saint-Cyr. Hérulin était mon instructeur, il était lieutenant, vous voyez, en 60. Il avait été gravement blessé à l'épaule. Et Hérulin, reprenait du service par le canal de l'école d'application de l'infanterie, avec des gens que vous connaissez sans doute de nom, comme Buchou, hein, Robin, Guiraud, enfin, des types de bonne pointure. Et lui, il était petit instructeur parmi d'autres. Et moi, j'étais petit lieutenant. Et c'était un type d'une gentillesse incroyable, d'une maîtrise de lui-même parfaite, très digne. Enfin, il était aimé des gens, quoi. Et il avait un sang-froid remarquable. Alors, le lieutenant Hérulin, on disait à ce moment-là, il va démissionner de l'armée parce qu'il a une sale affaire en 57. La seule affaire de Hérulin, qui est devenu le colonel quand même de Colvésie.
Colvésie, qui a été assassiné par la suite.
Assassiné pour, mort assez cruel. Et donc, quand il est avec nous, il parle démissionner, l'armée française, vous voyez, en 60, il parle démissionner. Et il est attaqué de façon extraordinairement violente par Alec dans le bouquin La Question. Nommément sur 100 pages en permanence. Avec une violence inouïe. Comment a-t-il été mouillé dans cette affaire? Je l'explique dans mon bouquin. Hein. Et c'est absolument incompréhensible pour moi de voir un type comme ça. Alors, c'est d'autant plus grave que le bouquin de la question de Alec, même que vous ayez d'autres renseignements là-dessus, n'a jamais été attaqué en justice, n'a jamais été condamné. Hérulin vivant ne l'a jamais attaqué pendant 20 ans. Donc on est obligé de dire, les sous-officiers qui étaient avec Hérulin, qui étaient accusés de torture abominable, dont certains sont devenus lieutenant-colonel, moyen peu le style, de bonbon de tenue, ont fermé leur gueule. Ils ont peur d'être attaqués à leur tour s'ils attaquent Alec. Donc le coup est imparable. Donc c'est 99,9% des attaques contre Hérulin se trouvent dans le bouquin d'Alec. Et moi, ça me navre de façon incroyable. Alors pourquoi l'a-t-il fait? Il a mis le doigt dedans, puis le bras y est passé, puis le corps entier, et on est dans une certaine ambiance qui fait que on ne relativise plus les choses, on y va franchement, il y est allé. C'est à l'opposé du caractère de cet homme, à l'opposé, qui est un type vraiment de grande qualité. Quand il meurt, il était proposable général, il a très bien joué le coup à Colvézi, magnifiquement bien. Il était proposé parmi les 5 colonels ou généraux qui étaient faits pour être chef d'état-major de l'armée, hein, je dis bien de l'armée française, armée de terre, ou chef d'état-major des 3 armes. Alors ça, j'explique son cas, si vous voulez, de la torture, bon, qui se passe très mal pour lui. Moi, je pense que 20 ans après, il ne serait pas remis. Il ne serait pas remis. Alors que c'était un type très bien. Quand il défilait avec le REP, il y avait des gens qui suivaient le défilé avec des panneaux Hérulin SS. Andrieux, le journaliste vous savez bien, de l'Humanité, à Antenne 2, quand il est à Colvézi, qui est en train de, une situation assez difficile, dont il se tire très bien, quand il est à Colvézi, il le dénonce à Antenne 2, moi je me souviens très très bien de ça, comme le tortionnaire d'Aleg 20 ans plus tôt à Alger. Donc il a été dans une tension permanente, cet homme. Moi, je ne pense pas qu'il ait été assassiné. Il est dans une tension permanente, et ses enfants que j'ai vu même sa femme, ils sont un petit peu gênés, tous ces gens-là. Jamais il n'a parlé de cette affaire à ses enfants. Je dis bien jamais à ses fils et à sa femme. Mais je pense que ça l'a tellement tendu et si violemment qu'il a tué d'un accident cardiaque.
Vous croyez?
Ah, je pense.
Et du quoi donc?
Un accident cardiaque. Il est mort d'une crise cardiaque.
Ça me paraît possible. Hein, oui. Bien, il y a peut-être d'autres hypothèses.
Alors,
il y
en a pas, vous nous donnez très envie de lire votre livre. Alors, ce que je n'ai pas fait pour l'instant.
Mais alors, il y a mêlé. Comment. Un petit lieutenant du 14e RCP, alors là, ça nous touche beaucoup parce que c'était mon commandant de compagnie et qu'il est mort dans mes bras. Il avait dérapé au 14e RCP aussi, dans la torture à un moment. Comment? Parce qu'ils veulent des citations, mon Dieu, c'est effrayant. On veut des bananes, on veut comme ce Bijard, enfin, parlons rapidement de Bijard, hein. J'ai des bananes, je défile sur les Champs-Élysées, je salue comme ça. Ils veulent des bananes, ils sont prêts à tout à ce moment, pour avoir des citations. C'est grotesque, c'est grotesque. Il faut le dire, c'est grotesque.
Mais ça marche depuis longtemps. Napoléon déjà le disait.
Lui, ce pauvre, qui était un type très bien aussi par d'autres qualités, ils ont des qualités magnifiques. Donc je crois qu'il faut dire, quand il se trompe, il faut le dire. Hein, je sais pas. Mais moi, je le dis avec affection, quand même, pour eux. J'ai vraiment de l'affection, même pour eux, malgré leurs erreurs. Je n'ai pas d'affection pour eux.
Au-dessus, il y a quand même la figure magnifique d'Argou.
Argou, super. Super, intelligent. Argou est un polytechnicien. Il m'écrit, je suis en accord avec tout ce que vous dites. Hein, je peux vous montrer ça. Et donc il a préfacé mon premier livre. Hein. Alors Argou, lui, comprend tout de suite. Il a devant lui, écoutez bien, Bollardière et Barbereau. Vraiment, il est débordé de façon extra. Est-ce que vous voulez une petite citation de...
Oui, j'ai trouvé conclusion, une citation.
Une citation, hein, j'arrête. Barbereau faisait se donner un serment par les commandos noirs. Quand il rentrait dans les commandos noirs de Barbereau, avec Bollardière, il prêtait serment, et comme quoi il s'engageait à ce que vous allez entendre. C'est absolument incroyable d'infantilisme et de gâtisme. Alors là-dessus, Argou dit, avec ça on aurait eu des centaines de milliers de morts. Je vous lis le serment des commandos noirs que j'ai trouvé. Je savais que ça existait, mais je le retrouvais nulle part. Vous ne le connaissez pas, non?
Non.
Alors, j'accorde de servir dans une équipe de nouveaux commandos nomades. C'est chacun, c'est mieux ça, hein, dont la mission est de rétablir la confiance dans les populations algériennes et de créer les conditions d'insécurité pour les félagas. Je sais que ces équipes légères auront à subsister et éventuellement à se défendre pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Dans des parcours de territoires très difficiles.
Mais ça arrive en temps de guerre.
Je mesure le risque et je l'accepte, dit le bidasme. Hein. Alors écoutez la suite, c'est admirable. Je m'engage en outre, sur l'honneur, à respecter les règles des commandos nomades. Tout musulman sera considéré par moi comme un ami et non pas comme un suspect. Sauf cas contraire. On n'est jamais trop pris dans le
mais cas contraire. Sauf cas contraire.
Contraire, il dit. Je mesure aussi le risque supplémentaire que cette règle indispensable à la réussite de nos missions me fait courir et je l'accepte pleinement.
C'est un peu effrayant, vous avez raison.
Ça, c'est Bollardière, Barbereau, opposé à Argo. Le serment des commandos noirs.
Voilà, ben là, merci. Alors, votre livre s'appelle Les Soleils Noirs de la guerre d'Algérie, et là, vraiment, on a très envie de le lire, parce que c'est quand même quelque chose.
Non, c'est uniquement, alors, par rapport à tous les gens qui, beaucoup de gens qui écrivent, ils font de la compilation, hein, vous savez. Ils font de la compilation au monde, partout. Moi, je ne le sais que par le témoignage écrit, direct avec eux. Même s'ils me débectent comme l'Oustresse.
Merci. C'est paru chez Dualfa, votre livre.
Oui.
Alors, je vais vous demander, messieurs, si c'est possible, en 2 minutes chacun, de me dire, de vous mettre dans la situation où Chirac vous appelle et vous dit comment en sortir. Dans quelle direction orienteriez-vous votre recommandation? Alors, je commence par M. Lagartembe, peut-être.
Oui, moi je dis il faut attaquer le Corambille en tête, parce que là, c'est du concret, si vous voulez, c'est quelque chose qui est facile de prouver. Il y a environ 400 versets qui sont ce qu'ils appellent, eux, des versets sociopolitiques. En réalité, ces 400 versets contiennent, par exemple, il y a 14 versets, si vous voulez, qui préconisent la vengeance personnelle avec application du talion. Bon, c'est écrit noir sur blanc. Il y a, 200 versets environ qui sont consacrés au djihad, dont au moins 100 qui tombent sous le coup absolument du code pénal. Il y a au moins, 200 versets aussi qui concernent évidemment le statut de la femme et puis les dévolutions des biens héréditaires. Ils sont complètement contraires au code civil. Il y a d'autres versets qui sont très nombreux, ceux-là, qui véhiculent absolument de la haine, tout à fait conforme à ces versets-là qui inspirent directement ce que vous avez cité tout à l'heure. Donc il n'y en a pas beaucoup. Il y a dans le Coran, il y a 6235 versets. Il y en a 400 ou 500 qui sont absolument illégaux.
Vous pensez qu'il y a un travail de pédagogie sur le Coran à faire?
Non, c'est pas une pédagogie. Ces versets, je les ai triés déjà.
Oui, mais il faut le faire connaître.
Non, mais il faut les attaquer.
Ah, d'accord. Oui,
il faut les attaquer.
C'est ça, d'accord.
Ils tombent sous le coup de la loi. C'est d'ailleurs ce que je démontrerai dans un prochain livre qui va paraître l'année prochaine.
Merci, monsieur Lagartembe. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on n'a plus du tout le temps. Je donne quand même le titre de... Alors, vous avez fait 2 livres. D'une part, on l'a dit, le petit guide du Coran, qui est paru aux éditions de Paris.
Absolument.
Et puis, toujours aux éditions de Paris, Histoire des barbaresques, préfacé par Jacques Hers, le grand historien Jacques Hers, de Laurent Lagartembe.
Quelqu'un a dit que on trouve difficilement le petit guide du Coran.
Oui.
Je suis étonné parce que on le trouve même à la FNAC et
Vous rassurez
ils ont la réponse.
Vous avez rassuré les auteurs. Monsieur Walter, que faut-il faire?
D'abord, montrer qu'il y a une différence entre un certain nombre de personnes, 90% des gens qui se disent musulmans, et l'islam. L'islam est inacceptable en France. Il a été destructeur partout où il est passé. Les 57 États de la Ligue islamique, de l'Organisation des États islamiques, sont les plus pauvres de la planète. L'Empire romain, la partie qui n'a jamais connu l'islam, France, Angleterre, Allemagne, etc., est de beaucoup la plus riche. Celle qui l'a vidée il y a 500 ans, l'Espagne est derrière. Au troisième rang, les Balkans qui s'en sont débarrassés il y a 150 ans. Au quatrième rang, la Turquie qui essaye de se désislamiser. Et au dernier rang, ceux qui sont restés totalement musulmans, c'est-à-dire le sud de la Méditerranée. Il a été destructeur partout. Il n'est pas compatible avec la République, il faut le montrer, ça. Et puis d'autre part, dire à ceux qui choisissent d'être français, et 90% des musulmans de France se disent musulmans, mais on choisit d'être français chaque fois qu'il y a une opposition, vous êtes les bienvenus en France, à condition d'abandonner tout ce qui fait la contrariété entre eux. Et quant à ceux qui ne veulent pas accepter d'être français et qui veulent conserver la sensibilité ou les idées de l'islam, ils n'ont rien à faire en France. S'ils sont pas nés en France, ils ont été expulsés. S'ils sont nés en France et s'ils se conduisent de façon trop mal, il faut penser au bannissement et obliger tous ces enfants à aller à l'école et prendre la seule sanction qu'ils acceptent, dont ils reconnaissent le poids, c'est les bannir ou les expulser s'ils refusent d'aller à l'école. Parce que quand ils refusent d'aller à l'école, ils sont nécessairement des exclus. Et on fabrique les exclus.
Merci Jean-Jacques Walter. Alors, Jean-Jacques Walter, W-A-L-T-E-R, Walter, c'est ça, comme wagon, Crépuscule de l'islam, c'est paru aux éditions de Paris également, Et c'est en vente dans toutes les bonnes librairies. N'allez pas dans les mauvaises, c'est pas la peine, vous ne le trouverez pas, il faut aller dans les bonnes.
Je mesure la difficulté que vit Victoria parfois quand on sourit, parce que on a quelques annonces à faire. Ouais. Si on les fait à la fin, on les fait pas toutes. Comme c'est que des amis, on se fait en guirlandais. Alors je vais parler très vite, mais je vais toutes les faire.
Mais je voudrais quand même terminer avec monsieur Alain, Abalin, et puis ensuite
je vais prendre le pouvoir après.
Alors,
très bref.
Brièvement, monsieur.
Alors moi je dis vous dites à Chirac, qu'est-ce qu'il faudrait dire à Chirac? Mm-hmm. Ben, il faut définir une politique et l'appliquer. Et on a l'impression que la politique qu'il fait avec Sarkozy est très fluctuante, hein, et qu'on s'adapte aux circonstances qu'on rencontre, on fait l'inverse. Non, appliquez votre politique et on verra bien. Et ensuite, faites votre politique aussi en faveur des musulmans qui sont pro-français, et ça existe.
Merci Paul Abalin. Alors Paul Abalin, Les soleils noirs de la guerre d'Algérie, aux éditions du Alpha. Merci messieurs, et pendant que le marquis va nous lire les messages,
alors,
nous allons vous demander de musicale, céder les places à vos successeurs.
Nous avons reçu un fax de l'abbé de Tannouart qui nous rappelle que le dimanche 20 novembre 2005, au palais de la Mutualité, 22 rue Saint-Victor, et ça commencera à 14h, il y a une grande journée sur Rome et la tradition à propos du centenaire de Mgr Lefebvre. Alors, je vais pas tout vous donner, mais soyez-y à 14h, il y a plein de choses intéressantes. Serge de Bekech prendra la parole.
Il n'y sera pas.
Non. Bien, alors voilà. Dans les autres annonces, je vous fais court. Pour le 9e anniversaire du départ à la vie de l'abbé Quentin Montgomery White, il y aura une grande réunion amicale au Chamblac le dimanche 27 novembre 2005. Les renseignements sont à prendre auprès d'André Bocher, B-O-S-C-H-E-R, au 02 31 80 80 03. La Fédération des associations présentes du souvenir bourbonien nous explique quel est son travail. Je vais tout simplement vous donner ses coordonnées, comme ça vous pourrez prendre contact. Alors, Fédération des associations présentes du souvenir bourbonien, président c'est le docteur Jourdan, boîte postale 51 403 37014 à Tours. Nos amis du cœur Montjoie-Saint-Denis sortent un disque compact de 72 minutes Vendée 1792-1796 que l'on peut commander chez Valérie à la Mer Agitée, 21 rue Campagne Première, 75014 Paris pour 18 €. Vous pouvez souscrire pour un bouquin formidable qui s'appelle La Deuxième Révolution Française. Alors il faut envoyer un chèque de je ne sais plus combien, de 25 € plus 3 € de port, c'est-à-dire 28 € aux éditions Arthéna, 12 rue Feutrier, 75018 Paris. Mon ami Armel d'Outrebante nous demande de rappeler qu'il y a une messe au château de Versailles le 20 novembre à 11h. Enfin, je rappelle que Anne Brassier vous prie de venir à un concert gratuit à la chapelle de l'hôpital Saint-Louis, 12 rue de la Grange-Aubel, le 18 novembre à 20h30 et le 20 novembre à 17h. Il y a un auditeur qui demande s'il y a une messe pour la Saint-Hubert. Vous êtes au courant?
Ben, je sais ce que c'est que la Saint-Hubert, mais je ne sais pas s'il y a une messe pour la Saint-Hubert. Voilà. En revanche, il y aura la Saint-Nicolas chez l'Alzaco, comme d'habitude, mais je vous en dirai plus la prochaine fois.
Voilà, moi
asseyez-vous, docteur. C'est le docteur Dor qui est la surprise générale parmi nous. Monsieur Claudio Rizet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez d'Italie?
Oui, je viens de Milan.
Et vous avez bien de la chance d'habiter une belle ville comme ça. Et vous avez écrit un livre qui est absolument passionnant et qui est très émouvant, curieusement, parce qu'on pourrait croire que un travail de sociologie ou de psychosociologie, je ne sais pas comment il faut l'appeler, peut être ennuyeux. Et non seulement il n'est pas ennuyeux, mais il est vraiment très très émouvant dès les premières lignes, puisque vous citez Télémaque, le fils d'Ulysse, qui dit « Si tous les désirs des mortels pouvaient se réaliser, la première chose que j'aimerais, c'est de voir le retour de mon père. » C'est une phrase de l'Odyssée. Et ça résume parfaitement le contenu de votre livre, qui est consacré à la question du père, mais du père in absentia, le père qui n'est pas là.
Oui.
Alors, c'est curieux, parce que on est convenu de vous recevoir, j'étais convenu que vous veniez dans cette émission depuis un certain temps déjà, et je pensais pas qu'on pourrait trouver un lien aussi direct avec l'actualité. Vous connaissez certainement l'actualité française en ce moment. Et moi, je me demande si une des clés de cette situation, de la situation de la France, peut-être même de la situation des pays occidentaux en ce moment, c'est pas la disparition du père, ou la quasi-absence du père, de son autorité, de sa présence tutélaire, de sa présence protectrice, formatrice, éducatrice. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que vous croyez
J'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, la société occidentale a été appelée par, au point de vue anthropologique et psychiatrique, déjà il y a 30 ans, « defender the society », la société sans père. Et ça, c'est une caractéristique très précise de notre société qui a, comme vous disiez tout à l'heure, des conséquences immenses, qui s'est développée pendant un long procès et qui part en un sens aussi de la Révolution française, de la pensée illuministe, qui renvoie, disons, le père avec le P majuscule, dans le haut des cieux, mais qui, en se faisant, laisse seul le père sur le père du monde, et qui continue pendant la société, la formation, le développement de la société industrielle, pendant laquelle le père devient toujours plus un administrateur, un provider de revenus, et quitte de façon progressive son rôle éducatif, et qui débouche dans les grandes guerres mondiales pendant lesquelles les pères, pendant plusieurs années, il reste loin de la maison pour la première fois dans le monde, laissant toute responsabilité aux femmes. Et après ces guerres, à partir de la Première Guerre mondiale, des millions de ce père ne retournent jamais, ils meurent.
Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même une différence très très grande entre le père absent, parce qu'il n'est pas là tout simplement, qu'il est parti, pas à la suite d'un divorce, et le père absent, parce qu'il est mort à la guerre. Parce que là, il y a, je dirais qu'au contraire, le père absent, qui est mort à la guerre, qui est mort en combattant, il est peut-être plus présent que bien des pères qui se rentrent le soir à la maison.
Il est une figure symboliquement très importante, mais quand même, ça produit une rupture de la transmission de la paternité de père en fils.
Oui, c'est vrai que quand on n'a pas eu de père, on ne sait pas comment se comporter avec ses fils.
On ne sait pas comment faire le père, on ne sait pas ce que c'est le père. C'est ces pères qui ont été élevés par des mères, et ça c'est comme on sait après la Première Guerre mondiale, et au fond, ont une relation affaiblie avec la paternité.
Donc, est-ce que le grand-père peut jouer un rôle de substitution?
Bien sûr, s'il est là, s'il est très, s'il sait ce que c'est le père, parce que voilà. Alors il faut bien dire aujourd'hui, quand on parle du père, on en parle un peu de façon sentimentale, émotive. C'est devenu une figure d'appui de la femme, de la mère. Mais le père, c'est plus que ça. Par exemple, un des grands phénomènes très caractéristiques de père, c'est celui de détacher l'enfant de la mère. Le père, c'est que celui qui frappe, qui détache. Donc, et qui prend le fils et qui le pousse dans la société, le jette dans le monde. Et en ce sens, c'est une figure profondément d'éducateur fondamental. Mais nous voyons aujourd'hui, et ça c'est un trait caractéristique de nos sociétés, et cette tendance à ne plus sortir de la famille et surtout de la mère. Et cette tendance, même quand on sort, et l'année continue à se déplacer toujours plus tard, l'année de la sortie de la famille, au fond, le problème pour les deux, soit pour le mâle que pour la femme, c'est qu'ils ne sont pas séparés vraiment de la mère. Et ils cherchent, ils continuent à chercher la mère dans leur époux ou épouse. Et ça, c'est une des raisons, à part naturellement tout l'appui des médias, la question du divorce qui est présentée comme une blague, comme quelque chose d'irrélevant pour la famille, etc., tandis que c'est tout le contraire. Mais au-dessus du développement des séparations et des divorces, au-delà de cette, disons, propagande médiatique, il y a ce fait fondamental que les nouvelles couples, très souvent, ne sont pas formés, ne sont pas vraiment adultes,
éduqués, oui.
Parce que soit le mâle que la femme n'ont pas été séparés de la mère. Donc, ils continuent à chercher la mère dans leur partenaire.
Mais ça, c'est irréparable. Une fois que c'est accompli, ou est-ce qu'il serait possible de créer une école des pères
Vous voyez, le cri du Télémaque qui était au fond le fils de quelqu'un qui était resté très loin pour beaucoup d'années de la famille. Et comment dire, ne s'éteint pas parce que il est inscrit dans l'inconscient collectif. Donc le besoin du père, c'est un besoin vital que chacun de nous, plus on s'éloigne du père, et plus récent au fond. Ce bouquin que M. Perrin a traduit maintenant en France, en Italie, a eu déjà 6 éditions et j'ai été demandé dans des dizaines de conférences pendant toute l'Italie pour le présenter.
Pourquoi le titre, c'est une question annexe, pourquoi le titre qui est l'absent inacceptable est-il devenu en français simplement l'absent? Parce que vous pensez que c'est plus acceptable en France qu'en Italie,
faut
demander au traducteur peut-être.
Ou à l'éditeur.
Non, c'est une question de sonorité. Je pensais que c'était plus frappant, mais ça rend pas
la chose plus acceptable.
Oui, en effet, je pense que c'est inacceptable parce que la personnalité humaine ne peut pas accepter ce manque. Et là aussi, je me rattache à votre présentation. Vous avez très bien dit, ça regarde ce qui passe en France et en toutes nos sociétés aujourd'hui. Par exemple, parce que si on n'a pas eu de père, on ne peut pas être père soi-même. Et ça, c'est une des raisons de la baisse de natalité en Europe. C'est ce fait qu'il n'y a plus de culture du père. Donc, il n'y a plus la passion de faire des enfants pour les mettre dans la vie et dans la société. Ces jeunes pères qui n'ont pas été détachés de la mère.
Et c'est extraordinaire ce que vous dites, c'est une pierre dans le jardin des gens qui veulent adopter des enfants quand ils se mettent en ménage, deux dames entre elles, deux messieurs entre eux. Ça, c'est une pierre dans leur jardin, ça. Alors vraiment, c'est formidable, ça.
Oui, je pense que c'est.
Parce que là, c'est du père.
Mais. Est-ce qu'il y a un moyen pour un garçon qui n'a pas connu son père d'acquérir ce sens de la paternité par un autre biais? Est-ce qu'on peut imaginer des substituts?
Sans doute, parce que le père, c'est une figure symbolique. C'est inscrit dans l'inconscient collectif, je le répète, et ça revient du père, ça descend du père céleste.
Du père éternel. Ouais.
Du père éternel. Donc, n'importe quelle figure éducative, éducatrice, qui te prend en charge et qui te détache de la mère pour t'initier, disons, pour être ton initiateur dans la société, est un père. Donc, père spirituel, père instructeur de sport, père maître de savoir.
Et là, on comprend bien, parce que moi, je parle d'expérience, puisque j'ai perdu mon père, j'étais très très jeune, et toute la vie après, est une recherche
d'un substitut.
Soit on a un ami beaucoup plus âgé, un maître, un patron pour qui on a de la dévotion, un prêtre qu'on va particulièrement vénérer, un auteur, un écrivain qu'on va dévorer avec passion, et chez lequel on va essayer de trouver, on va essayer de construire avec tous ces personnages divers qui viennent un peu de tous les horizons, on va essayer de se fabriquer une figure paternelle acceptable.
Au point de vue psychologique du sujet, c'est possible, mais là encore, il y a une question de culture et de société. Parce que ce qui est très grave dans nos sociétés est que l'idée même du père, aujourd'hui, est dévaluée.
Bien sûr.
Ouais. Donc, pas seulement les pères ne sont pas là, pas seulement les pères qui sont là n'ont pas été éduqués des pères à être père, mais être père est une mauvaise chose, est politically incorrect.
Oui.
Et alors ça c'est très grave parce que ça rend beaucoup plus difficile cette quête du père qui est très possible.
Monsieur, que pensez-vous des papas qui jouent à la maman, c'est-à-dire qui poussent la
poussette? Des pousseurs de landau, voilà, comme
qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas très papa, ça.
Non, mais non. Là encore, disons, il y a un côté utilitaire qui peut être utile, donc il n'y a rien de mal à changer.
C'est parce qu'on attend du père de le faire changer maintenant.
Mais le problème, c'est de ne pas, disons, s'aplatir sur cette propagande médiatique du père équivalent à la mère. Ça, c'est pas vrai.
Ah, voilà.
Le spécifique du père et de la mère, d'ailleurs, c'est d'être très différent l'un de l'autre et de faire de choses différentes qui renvoient à des symboles différents dans le système symbolique et dans les consciences collectives.
Est-ce qu'il n'y a pas chez le père aussi, enfin dans le rôle du père, une dimension d'affrontement? Je veux dire par là que le fils, quand il est en face de son père, bon, on va pas, vous n'êtes pas freudien, vous êtes jungien, vous l'avez dit.
Oui.
Donc je suppose que le côté Oedipe, tout ça, ça ne doit pas vous passionner.
Oui, mais quand même cette idée d'une blessure que le père demande ou pratique sur le fils.
Je veux dire, il y a l'arrachement
en effet fondamental.
Mais il y a aussi le fait que le père, c'est un peu un sparring partner au sens de la boxe.
Oui.
C'est quelqu'un avec lequel on va apprendre.
Qui t'entraîne.
Qui entraîne, mais qui est un adversaire, qui est un opposant,
qui est traîneau,
quelque chose à qui on s'affronte.
À la lutte.
Et on voit qu'aujourd'hui, et je pense toujours à ces émeutes urbaines, là, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que ces gens qui font ces émeutes, ils cherchent finalement un affrontement, ils cherchent un endroit où on va leur dire, bon maintenant ça suffit, il faut arrêter.
Oui, ça,
or ils ne le trouvent pas, parce que plus ils avancent, plus ils se reculent.
Bien souvent, ces jeunes arabes ont pris le pouvoir dans la famille, parce qu'ils parlent mieux français que leurs parents.
Ils deviennent autoritaires.
Et que leurs parents n'ont jamais réussi qu'à balbutier quelques mots du vocabulaire quotidien.
Ils ont besoin d'eux pour aller à la mairie.
Ils ont besoin de leurs enfants.
Ils ont plus d'argent que les parents en général.
Et ils ont aujourd'hui beaucoup plus d'argent que les...
Mais pour ce livre, vous l'avez fait dans quel but? Parce que je dirais que la situation, elle est telle, vous le dites d'ailleurs, il y a un chapitre qui est intitulé, qui parle de l'absence du père en Occident. Donc c'est l'Occident s'éloigne du père, dites-vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut remédier à ça encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un moyen de corriger cette dérive terrifiante qui est la disparition du père dans nos sociétés?
Mais le livre, je l'ai écrit justement pour aider ce retour que je vois très très fort, la demande de ce retour, je la vois très forte dans la psyché de mes patients. Je suis psychanalyste de profession, donc je vois que les gens ont profondément inscrit dans leur inconscient cette demande de paternité. Comme vous dites, des jeunes arabes qui font les émeutes. Et ils ont besoin de normes, ils ont besoin de quelqu'un qui dit, au nom de la loi, et la loi, ça vient du
père,
il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu fasses différemment.
Et là, je m'adresse à un Italien.
Autrement, c'est la folie. Autrement, techniquement, c'est la folie. Si le sujet ne trouve pas la loi ne trouve pas un barrage, ne trouve pas une norme.
C'est un garde-fou.
Il y a le phénomène de la psychose, il devient fou.
Est-ce que vous ne croyez pas que ce besoin du père peut expliquer, et je répète, je m'adresse à un Italien, donc je crois que la référence historique va devenir très facilement, peut expliquer l'adhésion de certaines populations, de certains pays, à l'idée d'un duce, d'un fureur, d'un caudillo, d'un dictateur, d'un chef unique, d'un monarque. Est-ce que ça peut jouer, ça?
Mais ça, c'est un risque, naturellement, s'il n'y a pas... des normes, s'il n'y a pas de père, si l'État n'est pas capable de représenter la loi du père, comment dire, il est très facile qu'une bande de voyous se présente en disant voilà, les normes, c'est nous qui vous les donnons.
Et souvent les dictateurs disent qu'ils sont le père de la nation une fois qu'ils ont pris le pouvoir.
En plus, mais là, il faut être très, d'après moi, il faut être très attentif parce que ceux qui font ces pères de la nation dictateurs, la première chose qu'ils font, en général, c'est de lever toute légitimation au père.
Voilà.
Parce que ce qu'on fait, soit Staline et Hitler, qu'un petit Mussolini, parce que c'était un dictateur à sa façon, mais c'était de déclasser le père à représentant du parti, au fond. Donc, si vous mettez le père, qui est quand même une figure de liberté, qui peut donner des normes, puisqu'il est libre de suivre ses principes, ses valeurs. Si vous réduisez le père à fonctionnaire de parti, donc à employé d'une idéologie, c'est fini. C'est fini.
C'est étonnant ce sens, comme la personnalité du père de Benoît XVI, du père du pape, était une personnalité extraordinaire, un personnage d'un caractère énorme qui, au moment où l'Allemagne était vaincue, et où par conséquent erraient des soldats en armes qui n'hésitaient pas à fusiller, à pendre ceux qu'ils croyaient déserteurs, eh bien lui continuait devant ces soldats en armes éventuellement foudrage de défaite, d'accuser le système hitlérien des malheurs de l'Allemagne.
Mais ça, c'est ce genre de figure très forte du père, on en trouve beaucoup dans le cinéma américain.
Oui.
Beaucoup dans le cinéma des années 50, 40, 50. Oui. Maintenant, ça a disparu, parce que maintenant, c'est tous des fiottes, quoi, disons le mot. Mais les années 40 et 50, on avait ce père qui était absolument, qui était incarné par des personnages dans le genre de John Wayne ou autre, et qui est le rock, le môle sur lequel on...
La référence.
Et ça, ça a été perdu par un véritable travail de sabotage médiatique. Il y a eu une destruction quasi scientifique, et qui d'ailleurs, vous l'avez dit dès le début de votre intervention, est dans le droit fil de ce qui a été fait au roi en France. À partir du moment où on a coupé la tête de roi, on a coupé le lien naturel entre le roi du ciel et les sujets sur la terre. Et à ce moment-là, on a des gens qui errent dans le désespoir et le...
J'ai très peu de temps. Je voudrais parler justement d'un endroit où je viens de passer 3 semaines. J'étais chez Charles X.
Ah oui.
C'est-à-dire que...
C'est pas le meilleur exemple.
Enfin, si, Charles X a été un père très attentif. Il a obtenu que la duchesse de Berry se marie et se range, enfin, alors qu'elle était partie pour...
Il
était temps qu'elle se range. Et donc, le dernier roi français qui a touché les écrouelles, et qui les guérissait, bien sûr, était le maître de maison où je viens de passer 3 semaines de soins, de cure et de travail et d'écriture au château de Divonne. Et la seule présence dans le hall d'entrée de réception du château de Divonne que je voudrais recommander, la seule présence du roi Charles X en grand manteau d'apparat avec le sceptre, le glaive et l'ordre du Saint-Esprit, imposait à toute la maison une qualité, une civilisation qui était extraordinaire. Et le caractère
paisible, le caractère familial de ce château était entièrement dominé par la figure tutélaire du portrait du roi Charles X au château de Divonne.
C'est drôle parce que quand j'ai annoncé que vous alliez nous parler de ce château au début d'émission, j'ai dit l'idée c'est de montrer comment la transformation d'un château en hôtel, en oui. palace, peut assurer la pérennité du patrimoine. Et là, c'est exactement ça, c'est un patrimoine
même spirituel. D'ailleurs, ce château est toujours propriété de la famille...
Pas de Louis, pas de Charles X. Quoi.
Pas de Charles X, non. De la famille qui était fidèle à Charles X, la forêt d'Yvonne, et il est géré par une chaîne qui s'appelle Les Grandes Étapes, qui est habituellement propriétaire des châteaux, mais qui là est locataire de la famille de la forêt d'Yvonne. Il y a une chapelle qu'on peut appeler gothique troubadour, n'est-ce pas
ça, oui, mais c'est souvent comme ça dans les châteaux de cette époque.
Voilà, gothique troubadour, qui est le sépulcre familial et qui, bien entendu, ne fait pas partie de la location, et où sont les ancêtres qui ont reçu Charles X. Charles X avait coutume, lorsqu'il était reçu par une famille, en partant, de laisser une épée d'honneur. Alors, la forêt d'Yvonne doivent avoir l'épée d'honneur de Charles X quelque part. Ils ne l'ont pas mise en location, mais ils ont laissé dans ce château ce portrait extraordinaire du dernier roi miraculeux qui touchait les écrouelles, du dernier roi sacré. Et ben, ça m'a fait du bien.
Pourquoi c'est pas une affaire d'écrouelles qui vous avez conduit là-bas, j'espère. C'est à quel endroit? C'est à Divonne,
non? Alors, c'est donc Divonne-les-Bains, le château de Divonne. Divonne, on peut le dire malgré tout, à l'ennui ce que la Mecque est au Coran. C'est-à-dire que le climat du lac Léman est un climat assez soporifique. Mais enfin,
ça porte pas l'excitation.
C'est peut-être ce dont j'avais besoin. Il y a des endroits mal famés à côté. Il y a eu à Ferney-Voltaire. Non, je pensais aux ceux d'autrefois.
Oui.
Madame de Staël. Copé, tout ça.
Ce sont des ombres coquines qui viennent.
Il y a quelques vilaines ombres alentour quand même, mais il suffit de monter 600 mètres d'altitude, quelque chose comme ça, et on est au-dessus des nuages du lac Léman, en plein soleil. Je suis allé comme ça au Fort des Rousses, qui a été un lieu d'entraînement des commandos, absolument extraordinaire, voir les chamois, chercher les chamois, et ça m'a fait un bien infini. Et donc je me permets de recommander. Bon, bien sûr, je dirais, ça coûte une certaine somme.
En général, ce genre de choses coûte une certaine somme.
L'apéritif sera offert à tout lecteur du Libre Journal.
Oui, l'apéritif sera certainement offert à tout lecteur se recommandant de moi. J'en suis absolument certain. Et du Libre Journal. Il faut voir aussi que aujourd'hui, aller dans une gargote, c'est mal manger pour 30 euros. Alors, bien manger pour un peu plus, c'est pas du vol.
C'est mieux.
Et de toute façon, la paternité est toujours très chère. soit au point de vue économique, soit au point de vue affectif.
Alors, gardons...
Mais le père, soit le roi...
Alors, le chef est un chef de cuisine qui est appelé à faire un nom, qui s'appelle Laurent Bélissa, et qui fait une cuisine absolument extraordinaire, en particulier récemment et actuellement, c'est une cuisine à base de châtaigne, une cuisine à base de marron.
Oh bon, c'est très bon.
D'avant la pomme de terre.
Ça, c'est extraordinaire.
Et la cuisine d'avant la pomme de terre, eh bien, c'est une cuisine de très 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 favorable à la santé. Voilà un petit peu le petit aparté souriant.
C'était un plaisir. On a eu l'impression de se retrouver dans une bonne maison bien fréquentée pendant quelques minutes.
C'est un endroit que je connais bien, Divonne. Je suis beaucoup allé avec une princesse égyptienne de Racro qui m'invitait quand elle allait prendre les eaux.
Elle prenait les eaux de Divonne.
Oui, voilà.
Alors les eaux de Divonne, c'est ça l'inconvénient.
Ah non, j'ai eu peur, je croyais qu'elle allait voler les eaux dans les cimetières.
Oui, non, la seule difficulté de la cure thermale, c'est qu'il faut boire de l'eau.
Oui, ça
c'est quand même assez dur, n'est-ce pas? Il faut reconnaître que c'est
ça un aspect. Ça peut faire du bien.
C'est un aspect austère et qui demande réparation. Par un bon
et là encore, le père, c'est austère. C'est très
là
souvent
aussi,
austère.
Le père, c'est austère.
Alors, pour en revenir justement au livre de Claudio Rizet, je voudrais dire qu'on a déjà un message d'une auditrice qui nous dit « Ouvrage remarquable », ce qui est tout à fait mon idée, et elle vous pose la question de qui est la phrase que vous citez dans votre livre « Seul un père blessé peut donner ». Est-ce que vous vous souvenez de l'auteur de cette phrase? C'est peut-être vous, d'ailleurs.
Oui.
C'est la blessure de Jacob dans le combat avec l'ange.
C'est un des thèmes courants du livre, mais ça vient du fait que la blessure est un des signes fondateurs du Père. Donc, ce que le Père fait, justement, c'est de blesser le Fils pour le couper de la mère, avec lequel il est lié dans une fusion au début biologique et puis même psychologique, qui continue longtemps après la naissance.
D'après vous, ça peut avoir un lien avec le fait que maintenant on demande au père d'assister souvent à l'accouchement, et il paraît qu'on demande même au père, moi je me serais évanoui avant même de franchir la porte de la salle d'accouchement, donc ça n'aurait pas été fonctionné, mais on demande au père de trancher lui-même le cordon ombilical.
Oui, là, il faut qu'il pose un
Oui, mais là, il faut faire très attention parce que le risque, quel est le risque? Le risque est qu'il tranche le cordon ombilical, mais qu'il ne tranche pas le cordon symbolique qui continue à lier l'enfant à la mère et qui va trancher surtout dans la préadolescence, adolescence. Donc tout ça revient à la demande qu'on m'a fait avant à propos des pères qui poussent
les pousseurs de langue.
Je voudrais couper le cordon, mais après il n'est pas quitte pour autant.
Donc tout ce déplacement du père dans les premiers moments ou semaines ou mois de vie. Ça peut aller très bien si on se rappelle que le moment décisif pour le père, c'est celui de l'adolescence de l'enfant. Oui. Parce que c'est là que l'enfant a besoin de lui. Le cordon ombilical peut être tranché par n'importe quel bon médecin, etc. Il y a une autre affaire qui est assez louche dans cette question des pères dans la salle d'accouchement. Et au fond, c'est toujours, disons, se confondre les terrains du masculin et du féminin. C'est même, c'est très souvent proposé avec des tons vaguement féministes, mais au fond, je pense que c'est un envahissement assez grave de l'espace féminin. Parce que là, c'est un espace sacré que le père doit respecter exactement comme la mère doit respecter ce moment dramatique où le père dit « Bon, maintenant, tu viens avec moi. »
Alors, c'est important qu'un père emmène son fils dans ses loisirs d'adulte. Et il y a une scène extraordinaire dans la littérature française qui est le moment où Marcel Pagnol, enfant, retrouve les deux Bartavelles que son père a tués au fusil. Là, il y a une symbolique formidable. Ouais. Et l'oncle se moque du père qui a raté les perdus.
Et le gosse brandit dans le soleil.
Et le gosse rattrape, n'est-ce pas, la proie et rend la gloire de mon père, n'est-ce pas, et partage le loisir avec. Alors qu'un père partage des loisirs d'adulte avec son fils, c'est fait là, peut-être partie des pistes.
C'est avec le chasseur qui parle au père.
C'est un livre formidable.
Vraiment, cher Marquis.
Il est passionnant, il est d'une intelligence éblouissante. C'est-à-dire que l'intelligence est italienne quand même, beaucoup, il faut bien reconnaître.
Spécialité
du Et je voudrais vous lire un tout petit extrait.
Il faut bien reconnaître que nous sommes des barbares, et ça c'est
la
sûr.
Mais il y a moins longtemps quand même. La société sans père est moins ignorante que le laisse supposer l'agressivité collective et chaotique sur laquelle elle repose. En effet, elle cherche à dérouter cette agressivité par des techniques contre-limitatives, comme les nomme Mendel. Désinhibition érotique et sadique du cinéma et des revues. Alcool. Tabac avec leurs effets narcotiques et excitants, tranquillisants qui anesthésient les forces vives de l'individu, hallucinogènes, télévision qui plonge le spectateur dans une torpeur hypnotique, utilisation de l'automobile avec des satisfactions narcissiques nettement régressives, moi égale tout. Par ce moyen, la société cherche à atténuer l'agressivité réactive des individus dont l'image positive de soi a été détruite. Je peux vous dire que
chapeau bas, vraiment. Chapeau bas, oui.
Monsieur Claude Rizet, je vous remercie. Ce livre est paru aux éditions Rémi Perrin. Il a d'ailleurs été traduit par Rémi Perrin, de l'italien, mais vous avez pu contrôler la validité de la traduction parce que vous parlez parfaitement
français. Très bonne traduction.
Claude Rizet est professeur de sciences politiques et de sociologie. Il est psychanalyste jungien. Un jour, il faudra que vous veniez nous parler de ça, parce que c'est passionnant. Et il a, dans ce livre, il analyse la relation père-enfant sous le sceau de la culture chrétienne, ce qui me paraît effectivement la dimension essentielle de ce livre.
Est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'il y a notre Père qui est aux cieux et qui est parfait, et puis notre Père sur terre qui, lui, a droit à quelques limitations?
Oui, il a droit, mais naturellement, il est beaucoup plus efficace s'il est conscient d'être le représentant interne de ce Père qui est aux cieux. Alors, c'est l'attaque qu'on a fait depuis l'illuminisme, mais déjà avec Luther jusqu'à nos jours, c'est de séparer ce Père terrestre du Père.
Ce qui est extraordinaire, c'est que Benoît XVI est un passionné du mystère de la Trinité.
Ah oui, mais bien sûr, non.
Il est dans ses armes avec
Benoît XVI, c'est un grand-père.
Oui, nous y verrons, justement. Oui, alors,
voilà. Vous me permettez de vous
interrompre.
Malheureusement.
Au revoir, mon cher Eric, à bientôt.
À très bientôt.
Je dois signaler que si vous voulez trouver le livre de Claudio Rizet, vous pouvez envoyer un chèque de 14 euros aux éditions Rémi Perrin, 46 rue Sainte-Anne, 75002 Paris. Vous pouvez le commander chez votre libraire également. Mais vous avez tout à fait avantage à aller après-demain, vendredi 18 novembre, à la librairie Duquesne à partir de 15h30, puisque Monsieur Rizet signera son livre, et il faut que vous fassiez sa connaissance, parce que c'est vraiment un personnage brillant et intéressant. Et puis le samedi 19 novembre à partir de 15h à la librairie France Livre, rue du Petit Pont.
Merci Victoria.
Ce livre s'appelle Le Père Absent de Claudio Rizet aux éditions Rémi Perrin. Et mon cher Rémi, donne-nous encore plus de livres comme ça, parce que vraiment ça... Alors en plus, il faut savoir, je peux le dire, Rémi avait un père qui était un personnage prodigieux au sens étymologique du mot, c'est qu'il était porteur de prodiges. Et
donc son fils...
Il est éternellement absent.
Ce livre m'a donné l'envie d'aller à sa recherche, et je suis en train de d'écrire quelque chose sur lui.
Ah, c'est une bonne nouvelle.
Et de revisiter tous les lieux dans lesquels il a vécu, pour laisser une trace pour mes deux petites filles.
Voilà, la succession.
On a un message qui prouve que les auditeurs sont très attentifs. On dit Louis XVIII n'a jamais été sacré. On parlait de Charles X. Hein.
Bien. Philippe, je vais vous demander, parce que je vais laisser la parole d'abord au docteur, mais j'ai peur que vous n'ayez que très très peu de temps. Docteur, alors je vous avais promis de pouvoir vous donner la parole pour continuer les passionnantes aventures de l'évolution.
Oui, enfin, peut-être je ne parlerai pas de ça ce soir, tellement peu.
Parlez dites-moi ce que vous avez
envie. Oui, écoutez, voilà. Mais justement, je suis très intéressé par tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai pu entendre. Bien. Et donc, dans l'actualité, il y a l'islam. Et puis. Très bien. Ce père absent, je pense qu'on peut, tout résumer. Je ne crois pas que ce soit, orgueilleux de le dire. Je ne pense pas. Enfin, je pense au contraire que c'est tout à fait légitime. Voilà. Je vais chercher le mot. C'est ceci. Je l'ai déjà dit, mais au fond, j'aime bien le redire. J'ai été invité à dîner chez ma belle-sœur, et le sujet était l'islam. Et il y a déjà 2 ou 3 ans, et on parlait du danger de l'islam, fausse religion, djihad, tout ça, conditions inférieures de la femme, enfin, il y avait un danger. Et alors mon voisin de gauche, qui était juste à côté de moi, et il avait pris la parole, et il avait dit, écoutez, moi je pense que non, l'islam n'est pas véritablement le danger. Alors je lui pose la question, mais quel est ce danger? Il dit, moi je pense que c'est le mondialisme. Et alors je lui dis, mais comment vous définissez le mondialisme? Alors là, vous voyez, je retombe dans ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit l'individualisme. Et là, justement, c'est l'absence du père. Nous ne devons pas avoir trop peur de l'islam. Bien sûr, il faut le connaître. Mais nous ne pouvons avoir peur de lui que si nous-mêmes, nous sommes faibles. Et si nous nous laissons aller, justement, à cet individualisme qui est une véritable folie. Et qui est une... Non seulement on tue le père, mais encore on tue Dieu. Il n'y a pas pire. Et je pense que précisément...
Et on tue nos fils aussi.
Et, oui, c'est ça qu'on savait très bien.
Et de ce fait, justement, alors j'y viens, justement.
On est de ça.
Et justement. Et alors, je pense que le pire, finalement, du mondialisme, c'est l'athéisme. Mais ça, j'ai une chose que je voudrais dire, parce que ce n'est pas une chose à laquelle j'ai toujours pensé. Et j'y pense de plus en plus. Le docteur Villette m'avait aidé à ce sujet, d'ailleurs. Et puis d'autres, enfin, des lectures. Eh bien, l'athéisme du mondialisme, l'individualisme, c'est pas autre chose que le péché originel. Et toutes ces résurgences, c'est le mondialisme. La différence, peut-être, c'est que maintenant, c'est chapeauté par certaines puissances occultes, on peut le dire, certainement très réduites, mais qui dirigent tout, parce que on a l'impression de chef d'orchestre qui met là la culture de mort, qui met là l'immigration. Mon Dieu, qui parle aussi de la Shoah, on en parle tout le temps. Enfin, je veux dire, il y a des choses bizarres, c'est ça. Donc, cet athéisme est particulier. En quoi est-il particulier? Eh bien, ce n'est pas. On s'accommoderait. Cet athéisme s'accommoderait à la rigueur d'un Dieu lointain. Dieu lointain. Après tout, on fait un peu ce qu'on veut. On fait sa propre loi. Il ne nous voit pas trop. Bon. Mais la chose qui n'est pas acceptable pour cet athéisme, c'est que Dieu se soit incarné. Car ceci veut dire qu'il nous aime. Et donc, on serait attaché par cet amour-là, et ça n'a aucun prix. On veut notre indépendance. Donc, je pense que, d'abord, cet athéisme est un refus de l'incarnation. Or, l'incarnation, c'est précisément ce qui définit l'Église. L'Église est l'héritière de l'incarnation. Et de la Trinité, bien sûr. S'il n'y avait pas de Trinité, il n'y aurait pas d'incarnation. Les deux sont liés. Mais l'Église est l'héritière, donc, de la Trinité et de l'incarnation. Je pense que la guerre est faite à l'incarnation. Et plus précisément, et à travers elle, à l'Église, bien entendu, puisque Dieu et l'Église, c'est tout un, je crois.
C'est vrai que symboliquement, l'avortement comme guerre à l'incarnation, alors, comme arme de guerre à l'incarnation,
alors,
on peut
voilà,
pas arriver mieux.
Je dirais là, on peut pas mieux trouver comme guerre à l'incarnation que la guerre faite justement à ceux qui sont conçus et qui meurent. Alors là, je voudrais dire, j'en ai pas pour trop longtemps, mais juste vous dire quelques rappels aussi. Tout le monde connaît le MFPF, Mouvement Français pour le Planning Familial. Il est très intéressant de les écouter, de lire ce qu'ils disent. Or, dans le dossier de présentation de juin 78, où je crois que c'était plus national, c'était international. Donc en juin 78, trois ans et demi après la loi Veil, il disait ceci. Nous militons pour la contraception et le droit à l'avortement. Alors vous allez voir, c'est très curieux. Ni par malthusianisme, ni pour améliorer l'état sanitaire de la population. Alors, je m'arrête un instant. C'est très curieux parce que de fois on nous a dit que c'est parce que nous sommes trop nombreux qu'il faut aller à la contraception et tuer nos enfants. Et aussi parce qu'il y avait tellement de femmes qui avaient recours à l'avortement que c'était vraiment... ne pas porter assistance à personne en danger qu'elle fasse ça sans secours médical, sans médicaliser le crime en quelque sorte. Alors ce n'est pas la raison. Alors quelle est la raison? Alors un petit peu plus loin ils disent ceci, et là c'est vraiment très intéressant, mais peut-être vous connaissez déjà la citation, je cite: l'objectif du mouvement, c'est moi qui le dis, c'est l'objectif. L'objectif du mouvement est d'inscrire le combat de la libération sexuelle dans un combat de libération sociale et de changement de société. C'est-à-dire qu'on ne tue pas nos enfants, je dirais tellement pour eux, parce qu'on peut pas. La vie est tellement dure, c'est tellement difficile. J'en ai déjà 8, j'habite dans 2 pièces, c'est pas tenable. Et puis là, on va m'aider, après tout, ça va pas trop me coûter, etc. Enfin, on la pousse à faire ça. Alors la pauvre, bon, ce n'est pas évidemment pour nourrir l'idéologie, pour nourrir Satan, parce que tout le monde a compris que c'est Satan qui est derrière, il est derrière le péché originel, vous serez comme des dieux, bien entendu. Alors, voilà, elle fait cette
affaire. Pour changer la société.
Et alors, ceci pour
dire le planning familial ajoute une chose, c'est que, ça m'avait beaucoup frappé quand j'avais lu leur texte, qu'en aucun cas, la contraception ne saurait être un remède, et qu'il fallait... tout point de vue, conserver l'avortement. C'est-à-dire que là, on est dans la dimension, non pas de la prévention de la naissance, mais du sacrifice.
Mais du sacrifice, parfaitement.
Donc c'est véritablement un sacrifice.
Mais parfaitement. Dans leur statut, je connais même les chiffres, 1,5 statut, le MFPF défend le droit à la contraception et à l'avortement. Donc elle défend le droit. Alors, je vais... donc, je trouve que là, l'islam, je dirais, nous en avons parlé. Et je pense que c'est la même... c'est le même mondialisme qui guide à la fois la culture de mort et l'islam. C'est le même. Pour quelle raison ? Il n'y a pas pire que tuer nos enfants. Pour désosser une civilisation, si vous tuez vos enfants, n'est-ce pas, la civilisation, en principe, c'est celle qui défend le plus faible, là, on fait le contraire. Donc, c'est la fin de la civilisation. Ça, c'est certain. Et puis, d'autre part, il faut faire éclater cette civilisation, donc, par le coin qui est le plus dur en ce moment, et bien, c'est l'islamisme. Alors là, on est envahi, il y en a 6 millions en France, c'est pas tenable. Enfin, ça ne peut pas aller plus loin. Bon. Et alors, je terminerai en disant ceci. C'est que un enfant, c'est ça peut-être le plus intéressant. Enfin, à part l'incarnation, parce que je trouve que l'incarnation, c'est quand même très intéressant. Un petit enfant verrait d'où vient le mal. Si vous avez assisté à quelques-unes de nos manifestations, pas à toutes, mais à certaines, qui étaient d'une violence, je dirais pas inouïe, parce qu'il y a eu des blessés, bien entendu, mais enfin, il n'y a pas eu de mort quand même. Eh bien, je pense à la rue Ordinaire, on était 17 fois rue Ordinaire. Eh bien, ils étaient 300, 400 contre nous. Nous, on était combien ? On était 50, 100, enfin voilà, je veux comme ça, et on priait. En face, donc c'était vraiment... Et alors, qu'est-ce qu'on entendait ? On entendait, vous le savez déjà, je l'ai souvent dit ici, gloire à Satan. Je dirais ça, c'est oui. Clair. Nous sommes les fils de Satan. Nous sommes les frères de Judas. Bon, et sur la Sainte Vierge. Ce qui veut dire qu'un enfant de 6 ans, de 7 ans, verrait d'où viennent les injures, d'où viennent ces blasphèmes, parce qu'il s'imagine que Satan, ça lui paraît quand même bizarre. Enfin, il ne connaît peut-être pas exactement, c'est un mystère, Satan, hein. Mais pour nous tous. Mais je dirais, un enfant verrait que c'est un combat eschatologique. Ouais. Actuellement, nous sommes plongés dans un combat qui eschatologique. Alors, on se sert, toutes les armes sont bonnes. Alors, évidemment, l'arme de fond, c'est l'individualisme, c'est-à-dire le péché originel, n'est-ce pas ? Et l'homme se fait Dieu. Donc à ce moment-là, je dirais évidemment, c'est bien ça. Donc le mondialisme s'en sert. Et puis alors, il faut écarrir la bûche avec des coins, et l'islam, c'est un coin. Et alors, je dois dire aussi, parce que j'en suis très choqué, et si j'étais juif, je dirais aussi, je suis très choqué aussi par l'usage qu'on fait de la Shoah. On nous en parle tout le temps, on a l'impression il n'y a eu que ce massacre, et c'est horrible. Je ne veux pas diminuer quoi que ce soit dans l'affaire. C'est une chose horrible. Mais je dirais plutôt que je pleurerais tous ces morts, mais je ne ferais pas une exploitation, n'est-ce pas ? Si j'étais juif, j'aurais honte de cette expression qui est faite. On a donc l'impression...
Ce qui est quand même surprenant, c'est le fait de dire que comparer l'avortement à la Shoah, c'est relativiser la Shoah.
Oui, alors c'est le comble. Parce que l'avortement, il ne faut pas en parler. Vous savez qu'on tue 3000 enfants par jour en France. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est de cet ordre-là. On tue 3000 par jour, 3000 enfants par jour en France. La Shoah, mon Dieu, c'est une chose déjà ancienne, encore une fois très malheureuse, mais nous c'est actuel, et c'est maintenant par milliards, dans le monde c'est par milliards, donc je dirais, voyons les choses telles qu'elles sont, et alors, vous me direz la solution, eh bien elle est toute simple, je dirais, il faut penser que Dieu lui-même s'est fait petit, il s'est fait embryon, nous devons respecter les plus petits, il s'est fait embryon, il a commencé par ça, il ne pouvait pas commencer autrement, n'est-ce pas, et donc, je dirais, le problème c'est la conversion du mondialisme, vous direz, il y aura du mal avec tous ces satanistes, parce qu'au fond c'est Lucifer qui mène, tout cet islamisme là par derrière, c'est Lucifer, ils n'en sont pas conscients, mais c'est ça, tout cet individualisme, c'est une guerre luciférienne, les enfants le verraient dans la rue, n'est-ce pas, eh bien, ce qu'il faut c'est se convertir.
Alors, merci donc, docteur, voilà. pour ce regard, merci.
Ah, mais alors, je n'ai pas dit la raison pour laquelle je venais,
oui,
aussi.
Parce qu'après...
C'est ça, c'est que, d'une part, nous avons un petit... un petit livre blanc de l'avortement qui va paraître, qui vient de plusieurs associations. Alors, je vous le recommande, ce sera qui l'édite, qui va coûter 8 euros. C'est un petit fascicule très bien fait, merci. Très au courant, qui parlera de tout, même de l'idéologie, je dirais. Et puis, alors, nous avons quand même une manifestation, bien
alors,
sûr.
Vite, quand
venez prier, justement, pour cette conversion, le 19 novembre, samedi prochain, à 14h30, sur le parvis Notre-Dame, près de près de Charlemagne. Et puis alors, une dernière chose, actuellement, nos finances sont à plat.
Bon, voilà. Alors, Philippe, il reste une minute pour que vous nous disiez ce qui se passe à Saint-Eugène.
Bon, il y a deux choses. Il y a d'abord à Saint-Eugène, c'est une des églises qui a reçu l'indulte, et nous avons beaucoup de messialisants, et notre curé, qui s'appelle le Père Potet, fait comme chaque année deux journées qu'on appelait dans le temps des journées de mais là, c'est plutôt pour se réunir, pour que tous ceux qui viennent à la messe chez nous se rencontrent.
Alors, ça se passe quand, ça?
Samedi et dimanche prochain. C'est de l'église Saint-Eugène, rue de Sainte-Cécile, le métro et le métro Bonne Nouvelle. Je voulais aussi, là, parlons-en maintenant, de parler un peu de Radio Courtoisie, mais c'est un peu court pour ce qui reste.
Moi, je préfère que vous reveniez, parce que on n'a pas le temps d'en parler sérieusement. Là, il reste même pas 30 secondes.
Donc, je voulais simplement rappeler cette journée de Saint-Eugène, qui aime bien qu'il se passe des choses en ce moment à Saint-Eugène, il faut pas y penser trop, il faut savoir que cette réunion est pour que tous les gens qui appartiennent à l'église de notre église soient là pour se rencontrer.
Merci Philippe. Pardon de vous expédier aussi rapidement, comme toujours, on perd du temps vers la fin, on manque de temps vers la fin des émissions.
C'est très intéressant alors.
Je vous dis non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, je remercie monsieur Claudio Rizet d'être venu, merci au docteur Dor, merci Philippe et merci Marquis de m'avoir aussi brillamment assisté. Donc à dans 15 jours, que Dieu nous garde.